Voilà, bonsoir chers parents, merci de votre présence ce soir donc pour notre première conférence éducative de l'année. Alors peut-être que vous avez fait cette expérience comme moi, où vous avez un groupe d'enfants à la maison qui s'amusent très bien, qui ont tout simplement trouvé des jeux de société, enfin voilà, il y a une belle ambiance, tout ce petit monde s'agite, etc. Et puis à un moment, un écran s'allume. Tout s'arrête, les enfants laissent en plan les choses et viennent se précipiter devant cet écran sur lequel passent des images totalement insignifiantes. C'est dire que pour nos enfants aujourd'hui, le portable a pris, les portables et les écrans d'une façon générale, ont pris une place prépondérante dans leur vie et exercent une sorte de fascination pour nos enfants. Alors, c'est évidemment un sujet éducatif majeur pour nous parents que de savoir comment les aider à gérer ces écrans dans leur vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous s'interrogent sur ce qu'il est bon de faire. Faut-il limiter le temps passé devant les écrans ou l'utilisation du téléphone? N'est-ce pas empêcher mon enfant de vivre comme tous les autres jeunes de son âge? Sommes parfois un peu désemparés sur la conduite à tenir en ce domaine. Or, comme Didier Pleu aura l'occasion de nous l'expliquer ce soir, la frustration est un mal nécessaire qu'il faut cultiver dès le plus jeune âge. Alors, comment réguler les écrans? À partir de quel âge faut-il le faire? Et en quoi consisterait un code de bonne conduite ou de bonne pratique au sein de la famille pour gérer le smartphone? Autant de questions qui nous concernent tous en tant que parents et pour lesquelles nous sommes heureux de pouvoir écouter ce soir les conseils du docteur Didier Pleu, qui connaît très bien ce sujet et qui vient de publier un nouveau livre qui a pour titre « Développer le self-control de nos enfants ». Tout un programme. Didier Pleu est docteur en psychologie. Il est directeur de l'Institut français de thérapie cognitive, psychologue clinicien et psychothérapeute. Il a travaillé en particulier la question du nécessaire équilibre entre plaisir et réalité. Il nous en parlera, je pense, largement ce soir. C'est un spécialiste des questions éducatives. Il a écrit plus d'une quinzaine de livres sur les questions éducatives. Un de ses plus fameux ouvrages est « Les 10 commandements du bon sens éducatif ». Tout à l'heure, après cette conférence, il pourra vous en proposer quelques-uns et les dédicacer si ça vous intéresse. Voilà. Il a été également chroniqueur au magazine de la santé sur France 5. Et je suis très très heureux ce soir qu'il ait pu venir jusqu'à nous pour venir nous informer et nous apporter tout son éclairage. Vous verrez qu'un éclairage qui est plein de bon sens sur un sujet qui est un sujet, je pense, une préoccupation majeure. Il n'y a pas un jour où cette question est évoquée avec des familles. Voilà, merci à Didier Pleu de sa présence ce soir.
Bien. Bonsoir, merci à vous. Alors excusez la voix parce que j'ai augmenté mon seuil de tolérance aux frustrations puisque j'ai passé 8 jours en Sicile, dont 3 jours sous l'eau. Et quand on est pieds nus dans des tangs en Sicile, on attrape des rhumes. Donc, d'où la voix un petit peu là. J'ai eu un sacré coup de froid. Alors, merci aussi surtout à vous d'être là, mais Monsieur Le Diagon, de m'avoir sollicité, et aussi Monsieur Corbeau pour la logistique, puisqu'on a beaucoup correspondu tous les deux pour préparer cette soirée. Alors, bon, faut pas que je fasse trop le zouave avec mes pieds, parce qu'il n'y a pas le... C'est en général, quand on fait une conférence, le drap est beaucoup plus bas, donc on voit pas les mouvements de pieds. Bon, je vais faire attention. Oui, vous disiez que je dirigeais l'Institut effectivement de thérapie cognitive à Caen, en Normandie, hein, où j'ai un cabinet. En fait, c'est l'Institut qui est affilié avec l'Institut Ellis de New York. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Albert Ellis, qui était un grand psychologue américain des années 50. Il est décédé en 2007. C'est lui qui m'a formé dans les années 80, puisque j'avais été un peu déformé avant dans les universités françaises, donc j'avais besoin d'un peu de sang frais, et c'est lui qui m'a apporté énormément de choses. Et j'espère être un peu son fils spirituel, parce que c'est aussi lui qui a parlé énormément de tout ce qui était tolérance aux frustrations, et de toujours dire que dans beaucoup de pathologies, il y a toujours un dénominateur commun qui est l'intolérance aux frustrations. Quand je prononçais ce mot il y a 25 ans, on me disait frustration, c'est connoté castration, inhibition, enfin quelque chose de très négatif. Maintenant, ça y est, ça rentre dans les mœurs. Le mot intolérance aux frustrations est de plus en plus banalisé. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse très attention à cette affaire-là. Il y a un problème en ce moment avec la frustration. C'est pas un vilain mot, c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que, et on le verra, beaucoup de jeunes tombent dans cette fameuse intolérance et ça peut effectivement faire beaucoup de dégâts. Alors, institut de thérapie cognitive, ça veut dire quoi? Les approches cognitives, pour ceux qui connaissent, c'est toute cette hypothèse qui dit que selon ce que l'on se dit dans la tête, ce que l'on pense, on éprouve certaines émotions. Vous allez voir, tout au long de cette soirée, vous allez passer par des émotions sans doute différentes. De temps en temps, il y aura un peu de colère interne quand je force un peu le trait, que j'ai des hypothèses parfois caricaturales. D'autres seront dans des sentiments quelquefois d'impuissance en se disant « ben oui, mais j'arrive pas à faire ça à la maison ». D'autres auront des phénomènes d'anxiété. Quoi. Selon ce que vous allez vous dire, interpréter, synthétiser dans vos têtes, vous allez éprouver les émotions. C'est ça l'approche cognitive. C'est pour ça aussi que je parlerai souvent de ce que disent nos enfants, nos ados, par rapport à la scolarité, par rapport aux loisirs. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils se disent. Hein, parce que la psychologie classique est toujours en train d'interpréter le sens. Moi, je suis dans une psychologie pratique, concrète, c'est-à-dire avant de quêter le sens, j'essaie de voir les choses d'une façon réaliste, rationnelle. Hein, en gros, quand une patiente me dit « mon fils joue avec son petit train en bois, il a 5 ans et il essaie de raccrocher la locomotive au wagon parce qu'on est en train de se séparer avec mon mari », ce qui veut bien dire qu'il souffre notre séparation, moi je pense plutôt qu'il a décroché la locomotive en la poussant un peu trop vite dans les virages. Alors en phase 2, je peux me demander si la locomotive n'a pas un sens, mais de toujours prétendre qu'il y a un sens derrière tous les comportements, c'est ça aussi qui, je pense, a beaucoup fragilisé la parentalité, l'éducation, parce que l'éducation a besoin de bon sens, justement, a besoin de réalisme. Quand on me dit qu'un ado qui boit trop de Coca-Cola a forcément un problème oral, affectif, de carence avec sa mère, moi je préfère dire aux parents « achetez pas de Coca-Cola ». Mais par contre, je vais les aider pour qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dire non à votre ado quand il exige son litre de Coca-Cola. Alors, il n'y aura pas de recette par rapport aux tablettes, parce que si vous voyez bien le titre que j'ai mis dans la première diapo, c'est gérer la frustration. Parce que en fait, le phénomène des tablettes et des smartphones, et là on a du mal à réguler ça avec nos enfants, nos jeunes adolescents, c'est souvent ce qu'on appelle le symptôme en aval. Et vous devez le savoir, il y a aussi des familles où il n'y a pas ce problème, même s'il y a tablette, même s'il y a smartphone. Il y a aussi des familles où c'est pas un gros problème. On avait exactement le même souci dans ma génération, c'était l'arrivée de la télévision. Et l'arrivée de la télévision, c'était, ça a été diabolisé, ça va tout changer, il y aura des films le dimanche après-midi, là où on se baladait avec les copains ou avec ses parents. Non, c'est une fois de plus, c'était comment des enfants arrivent à se dire à un moment donné, mon unique but dans la semaine, c'est de regarder la télévision mercredi après-midi. Comment des enfants, des ados arrivent à se dire, mon unique but dans la journée, c'est de communiquer avec un copain ou d'immédiatement avoir des informations ou des données ou des loisirs sur un iPad ou des smartphones. Et on verra que je parle souvent de ce qu'on appelle l'autorité en amont, c'est-à-dire, et M. Ludiagon l'a bien dit dans son introduction, si nous intervenons avant pour inclure la frustration dans notre éducation, ben, y a de grandes chances qu'ils seront habitués quand on leur dit non, quand on leur dit de différer, quand on leur dit de ne pas faire n'importe quoi. Alors ça ne veut pas dire que parce que votre ado va passer 2 heures sur un iPad que vous êtes un mauvais éducateur, mais ça veut dire que peut-être vous avez raté cette fameuse première marche de l'escalier, c'est-à-dire est-ce que j'ai des exigences, est-ce que j'ai des choses, des demandes, parfois déplaisantes, à la maison, en éducation, qui font que le plaisir, le principe de plaisir immédiat, n'est pas forcément une préoccupation. Vous voyez, donc c'est un peu de tout ça dont je voudrais échanger avec vous. Alors, je vais vous demander aussi de chausser de nouvelles lunettes, parce qu'il y a des choses qui peuvent heurté, parce que je force quelquefois un peu le trait, et puis c'est vrai que j'ai aussi une petite réputation parfois sulfureuse sur les prises de position d'Olto, etc. Mais c'est ça, une conférence, hein. C'est pas d'adhérer à ce qui est dit, c'est d'entendre une nouvelle hypothèse de travail, hein. Souvenez-vous, je suis psychologue, les études en psychologie, la psychologie c'est une science molle. Ça veut dire que ça ne peut être qu'une hypothèse de travail. Hein, il y a bien sûr la science expérimentale, la psychologie expérimentale, hein, les neurosciences, tout ce que l'on veut, mais la psychologie dite psychopathologique, hein, qui s'occupe des comportements, des dysfonctionnements émotionnels des personnes, c'est une science molle. Et malheureusement, dans notre culture, c'est souvent vécu comme une vérité. Vous pouvez lire n'importe quelle revue sur n'importe quel sujet. Si le psy de service a dit qu'il fallait réguler une heure et demie d'iPad par semaine, il a raison. Si le psy de service a dit qu'il fallait laisser la petite copine fréquenter son fiston samedi soir à la maison, il a raison. Non, c'est, selon l'obédience, vous allez voir, il y a des tas de contradictions. Et c'est ce qui doit vous perdre. Parce qu'il y a de quoi se perdre. Moi, en ce moment, je vois des tas de gens en consultation qui sont paumés parce qu'ils n'arrêtent pas de lire des tas de livres sur la psychologie positive, la psychologie bienveillante. Et moi, la mienne n'est pas très bienveillante. Donc, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faites un doux mix des deux. Mais c'est vrai qu'ils sont perdus. Ils disent, mais je comprends pas. On me dit qu'un enfant qui exprime une colère, faut lui parler de sa colère, faut lui parler de son ressenti, faut essayer de voir ce qu'a déclenché ça, et puis communiquer, et ne pas le contre-agresser, etc. Et moi, je dis souvent, bah oui, mais une fois que vous avez fait ça, s'il recommence, qu'il aille dans sa chambre se reposer un petit peu, quoi. Donc, je voudrais une attitude conflictuelle. L'autre fois, il y a une maman qui me dit ça, c'est une émission de radio, et elle parlait du dernier incident qu'il y a eu avec son enfant de 6 ans, qui s'était roulé par terre, qui avait été odieux dans le salon. Et la personne disait, bah écoutez, là, j'ai pris l'attitude qu'on nous conseille en psychologie positive et bienveillante. Comme j'étais énervé moi-même en tant que maman, j'ai quitté la pièce. Et je suis revenu ensuite pour parler à mon enfant, pour qu'on voit ce qui s'est passé. Mais moi, quand un gamin se roule par terre dans une pièce, c'est lui qui quitte la pièce. C'est pas l'adulte. Parce que c'est un comportement qui n'est pas admissible. Et on le verra dans les sociétés dites primaires, que les réactions comme ça caractérielles sont absolument refusées dans les sociétés dites primaires. Il y a toujours un membre de la tribu ou de la famille, je parle pas des dans des zones où il y a des guerres, des choses comme ça, des choses absolument terribles, mais dans des sociétés d'Afrique centrale, des sociétés d'Amérique du Sud ou d'Asie qui ne sont pas développées industriellement, le comportement déviant d'un enfant est tout de suite rejeté par la communauté qui lui dit non, ça n'est pas un comportement normal, on n'accepte pas ça. Donc je crois qu'on accepte beaucoup trop de choses. Alors je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre de nouveau un mouvement de bascule. Vous savez, on n'arrête pas de faire des choses comme ça. Moi j'ai malheureusement connu les blouses grises. J'en parlais tout à l'heure quand j'ai rencontré l'équipe éducative. C'est vrai que j'évoquais ça. C'est combien de fois, moi j'étais comme ça à 7 ans en se demandant si je n'allais pas me prendre une baffe par mon instituteur. Donc ça c'était les années... C'était en 57, je me souviens, quand on était à l'étude, hein, on avait 6 ans, et ben il y avait ce qu'on appelait un prélèvement. Après la classe, il y avait une heure et demie d'études, il y avait un prélèvement. Donc on était une quarantaine de jeunes, entre CP et CM2, petits enfants, et puis il y avait le père Mialet, je m'en souviendrai toujours, qui était avec une canne de chêne et qui était sur une estrade et qui nous disait « je vais faire un prélèvement ». Et le prélèvement, c'était toi, tu viens, tu montes avec ton cahier de texte et puis tu vas me réciter la leçon. Vous imaginez quand on est un peu sensible, émotif, apeuré, quand il vous dit devant les 30 autres bambins avec une voix terrible, 6 fois 7, ben 6 fois 7 la plupart du temps ça faisait 22. Donc là on se prenait une baffe, l'anxiété montée, on avait la trouille, on faisait des furoncles, on pouvait pas en parler à la maison, on pouvait rien dire parce que si on faisait le zouave à l'école, ben on s'en prenait une deuxième à la maison. Donc sans parler de Zola, on a quand même vécu ça. Donc c'était nécessaire que dans les années 70, il y ait une sorte de révolution qui dise que l'enfant est un être respectable à part entière et qu'il faut peut-être faire quelque chose aussi pour favoriser un contexte pour l'apprentissage, pour le développement de la personnalité et pour développer une certaine empathie. Par contre, je crois qu'on a été beaucoup trop loin dans l'autre sens. Donc mon histoire, c'est de ne pas revenir aux blouses grises. Est-ce qu'on peut enfin faire une synthèse judicieuse entre ce que la psychologie de l'enfant nous a apporté dans son respect, dans le contexte qui est absolument nécessaire à son épanouissement, mais aussi en réincluant l'autorité adulte, la verticalité adulte, et comme vous l'avez si bien dit en introduction, en réincluant l'effort, le contraignant, le déplaisant. Donc voilà un peu le sujet de ce soir. Donc il y aura 1h30 grosso modo d'intervention. Et puis j'aimerais ensuite qu'il y ait une sorte de question-réponse comme ça se fait traditionnellement. Alors je suis parent aussi, hein, donc je sais ce que c'est. Je parlais de ça récemment avec un collègue et qui ont parlé de ma dernière petite qui a 26 ans maintenant, la petite. Et c'est vrai que comme je suis un peu toc, mes trois enfants ont 10 ans d'écart. Donc en gros c'était 45, 35, 25. Eh bien c'était 10 fois plus facile d'éduquer mon fils aîné. Pourtant on l'a vu très très jeune, on était précoce avec sa maman. Mais beaucoup plus facile que la dernière. La dernière elle a vécu dans un contexte d'abondance. Mon cabinet marchait bien, on voyageait beaucoup, les voitures étaient climatisées. Il n'y avait pas qu'une chaîne de télévision, il y avait déjà par satellite je ne sais combien de trucs. Ouais. Elle a été élevée là-dedans et c'était toujours 10 fois plus difficile qu'elle puisse accepter les petites contraintes de la vie alors que l'aîné, lui, a vécu les périodes de camping, les périodes où on mangeait beaucoup de nouilles, les périodes où il n'y a pas forcément de vacances, les périodes, etc. Et le premier poste de télévision, vous voyez, toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un sauvage et dans l'ataraxie et de baisser tous les désirs. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'être parent en 2017 qu'il y a 40 ans. C'est pour ça que je ne veux pas être un donneur de leçons. C'est dur. Et les parents que je vois en consultation, bien sûr, je vous parlerai des phénomènes les plus difficiles qu'on rencontre. Hein. Je sais très bien que majoritairement, les enfants, les ados vont bien, mais je ne suis pas là pour vous dire vous faites mal. Je sais combien c'est difficile. Récemment, l'an dernier, avec ma dernière, fallait qu'on parle des histoires de surpoids, d'alimentation, de choses comme ça. Ben, j'étais dans le même truc. J'y vais pas. J'en parle pas. Est-ce qu'on a des tendances à ça dans notre famille? Eh bien, est-ce qu'on laisse filer? Elle verra plus tard, elle est grande. Ou est-ce que je joue mon rôle de parent en disant, attends, tu te souviens de ton grand-père, tu te souviens des soucis que j'ai, tu te souviens de... C'est pas évident, et on est tous des prédiabétiques, etc., etc. On est tout le temps là-dedans, mais entre ce que je disais et le copain qu'elle avait à ce moment-là, qui était plutôt kebab, truc, hamburger sucré et tout, et qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Donc c'est là que c'est dur, c'est qu'on n'est pas tout seul. Avant c'était assez facile, on était entre eux, mon oncle était prêtre, et les instits. Tous les adultes allaient un peu dans le même sens. Ça pesait plus lourd que les copains. Alors les copains, bien sûr qu'on avait des amis, on essayait de faire des petites choses, mais ça pesait moins lourd. Et là en ce moment j'ai l'impression toujours que notre parole, elle pèse pas lourd par rapport à la culture jeune, comme on dit. Donc... C'est vraiment le bémol que je voulais vous donner. C'est pas une histoire de donner des leçons. C'est difficile, difficile, difficile. Et je prenais un exemple par rapport à ma fille. C'est ma deuxième. J'avais fait après le bac 1 an aux États-Unis dans une famille pour apprendre l'anglais. C'était des concours qui existaient à l'époque. Ça s'appelait AFS. À l'époque, j'ai toujours eu de la chance avec la réalité. J'avais demandé le Texas. J'ai eu l'Alaska. Bon. Oui, d'où ça vient l'intolérance aux frustrations, c'est-à-dire que j'ai eu mes petites doses, bon, très habitué à tout ça. Bon, bref, et je me souvenais toujours que c'est quand j'écrivais à mes parents ou j'écrivais à mes amis, l'aller-retour prenait plus de 15 jours. Plus de 15 jours. Il n'y avait pas de téléphone chez moi, donc je téléphonais pas à mes parents. Mais quel bonheur quand j'attendais le courrier, quand je recevais tout ça, etc. Mais il n'y avait pas de détresse entre-temps. C'était, bon, ben, il me manque, mes amis me manquent, etc. Ma fille, donc quelques 40 années ou 30 années plus tard, fait exactement le même programme, mais elle aussi, elle a beaucoup de chance, elle tombe en Alaska. Non, mais c'est parce que je connaissais la famille, bon, bref, qui l'avait accueillie. Mais elle, on l'entendait au téléphone le dimanche soir. On avait dit, toutes les semaines, il y aura un téléphone. Et je me souviens toujours que ça se terminait toujours en pleurs. Vous me manquez, etc. Et les parents qui l'accueillaient, américains, disaient, ben ouais, le coup du téléphone, c'est sans doute sympa, mais ça la fragilise. Et la petite dernière, qui elle aussi a fait le même programme, pas en Alaska, ailleurs, mais aux États-Unis aussi, elle, c'était sur Skype. Et vous auriez vu la fin du Skype, avec ses grosses larmes de crocodile et tout. C'est ça mon histoire de, on fragilise nos enfants, mais on l'a pas voulu. Le progrès fait qu'ils sont très fragilisés, parce qu'effectivement, quand on imagine ses parents, quand on fantasme les choses, ben on se solidifie, parce qu'ils sont pas là, on est obligé de construire quelque chose au niveau de la réalité. Mais quand on a quelque chose d'accessible comme Skype, Ben, ils sont presque là, mes parents, donc j'ai envie de toucher, de les revoir, je sais pas quoi. Donc, c'est ça l'affaire actuelle, c'est que tout ce qui est proposé au niveau consommation, au niveau facilité, on le verra surtout, bien sûr, au niveau des réseaux, des tablettes et tout, fragilise l'enfant et l'adolescent au niveau d'un principe de plaisir qui est exacerbé et qui, bien sûr, affaiblit tout ce qui est principe de réalité, dans le sens principe de réalité déplaisant, frustrant, etc. Donc, on ne revient pas sur certains livres que j'ai pu écrire. Je regarde mes notes parce que j'ai aussi un prompteur en dessous hein, qui me dit ce qu'il faut que je dise. Non, il n'y a rien de nouveau à vous dire. Alors, au niveau de l'intervention, je vais faire un petit topo sur le plaisir-réalité, bien sûr, et parler de ces fameuses générations X, Y, Z. Alors, je répète, sans dire que tous les enfants sont comme ça, mais pour évoquer l'hypothèse que je veux travailler avec vous, et bien sûr, la frustration, et quelle réponse émotionnelle on peut avoir en tant qu'adulte. Parce que c'est ça souvent le souci, ils nous mettent immédiatement aux émotions. Ils nous mettent aux émotions, comme on dit, dysfonctionnelles. C'est-à-dire on passe de anxiété, je sais pas comment faire, à impuissance, je suis bloqué, à colère, j'en peux plus, quoi. Ils sont pas tous comme ça, mais ça va très 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 vite, et j'aimerais bien vous donner quelques pistes. Donc pour ce qu'on appelle un accompagnement beaucoup plus rationnel, et là on aura un échange ensemble. Alors, plaisir réalité chez enfants, ados et adultes. Alors j'ai mis aussi adultes. Parce que cette histoire d'équilibre entre le plaisir et le déplaisir concerne tout le monde. Vous devez voir en ce moment le dernier scandale de ce mania, je sais pas quoi, là, du cinéma aux États-Unis, là, qui se fait attraper pour ces histoires d'harcèlement. Ben, ils ont leur DSK, mais pour moi, ce sont ce qu'on appelle les adultes rois. Il y en a qui commencent à dire à la radio, mais il doit être très malade. Les soupçons encore d'un carencé maternel qui a dû pas avoir le bon sein quand il avait 2 mois. Je crois que ça doit être encore quelqu'un qui a été mal élevé. Moi, ce que j'appelle un adulte roi, toute puissance de l'ego, je fais ce que je veux, chosification des autres, la femme n'existe pas plus qu'un objet, etc. Il n'y a pas à aller plus loin, mais vous devez aussi voir des comportements comme ça de temps en temps chez nos jeunes qui n'ont aucun respect de l'autre, qui n'ont pas d'empathie. Alors, bien sûr, je noircis le tableau, mais les pathologies que je vois dans mon cabinet n'ont rien à voir avec celles que je voyais à 35 ans quand j'ai ouvert. Il y a 35 ans, c'était l'enfant ou l'ado un peu boutonneux, inhibé, blessé, estime de soi fragile, qui avait besoin de voir un psy pour causer, parce qu'il y avait sans doute trop de pater familias ou d'autoritarisme. C'est cela qu'on voyait, ceux qui étaient, fallait libérer par la parole. Mais ce que je vois maintenant, c'est ceux qui mangent dans la salle d'attente et puis qui n'auraient pas le souci de nettoyer quoi que ce soit avant de venir me voir. Je suis obligé de mettre un balai. C'est ceux que je vois justement tapoter le smartphone alors que je suis en train de leur causer. Donc je suis obligé de leur dire « tu me donnes ça ». Enfin, je suis obligé de faire de la discipline avant d'entamer une discussion. Avant, on n'avait pas de discipline. Ils étaient là tellement heureux de pouvoir s'adresser à quelqu'un. Maintenant, ben, on se balance sur la chaise, on n'écoute pas, on veut le smartphone, on mange, ou tout d'un coup, il y en a un qui me dit l'autre fois, j'ai soif. En Normandie, bon, peut-être qu'on a un printemps indien ce week-end, enfin, j'ai soif, ben, tu peux attendre. Voyons, ça a l'air d'être pressé chez toi. Et je dis, qu'est-ce qui se passe quand t'as faim? Mais je mange. Oh, voilà quoi. Donc je lui dis, t'es comme Lasca, toi. Il dit, c'est quoi, c'est Lasca? Oh, c'était mon chien, on en reparlera. Non, mais quand on a une bonne alliance, on peut se permettre de dire ça, parce que si on revient au stade animal, j'ai faim, j'ai soif, puis on peut continuer comme ça, etc. Non, mais c'est terrible, parce qu'ils sont pas responsables de ça. L'humain est biologiquement stimulé pour le plaisir, tout le monde le sait. Mais ça n'empêche que, à un moment donné, si on n'humanise pas le désir, on reste à un stade instinctuel et animal. C'est aussi bête que ça. Donc, papa Freud, qui est pas forcément ma tasse de thé, parlait d'un surmoi, mais maintenant j'ai bien l'impression qu'entre le fameux ça instinctuel et la personnalité, il n'y a pas une instance de valeur transcendante, de surmoi, d'interdit et de censure. On a l'impression que ça passe du ça au moi. Donc, si ça passe du ça au moi, c'est qu'il manque une médiation. Est-ce que c'est une médiation religieuse, idéologique, mais je dirais déjà en premier lieu parentale, adulte, au moins. Ah là là, je vais vous désespérer là. Mais non, vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même des ressources. Alors il y a quand même, il y a une réalité, c'est ça qui ne va pas. Ce que je développe, c'est que ce sont souvent des alors quand je dis enfant ado ensemble, ou jeune adulte, hein, il y a un ado qui me dit ça l'autre fois, je suis pas un gamin, vous me parlez comme un gamin, t'es autonome financièrement, t'es, bon, non. Donc voilà, t'es un gamin, voilà. Mais non, parce que c'est toujours crime de lèse-majesté quand on leur dit des trucs. Évidemment, ils viennent de la maison des ados. Alors, quand ils viennent de la maison des ados, ils tutoient les éducateurs, ils tutoient les psys. Donc, quand ils viennent chez moi, parce que pleut le facho, n'allez pas le voir. Mais quand ça marche pas, quand il y a des grands troubles alimentaires, quand il y a du délit, quand il y a l'addiction, on va voir papa pleut aussi, hein, le facho, c'est lui qu'il faut aller voir. Donc, eh ben non, on parle pas comme ça, on me tutoie pas, et puis j'ai le droit de taper comme ça, et puis c'est comme ça. Mais ils adorent ça, finalement, parce que ce qu'ils aiment, c'est ce qu'on appelle habiter sa parole. Si je vois un ado qui est en Iroquois, un côté rouge, un côté vert, je dis, si tu veux bosser avec moi, ce sera ta couleur de cheveux naturelle, hein, tu reviens pas, là. Moi je suis pas, c'est pas le serpent d'air ici, c'est... Ils viennent, ils reviennent! Pas au bout de 8 jours, mais au bout d'un mois, ils redemandent, là, je crois que monsieur, ça va vous plaire, Nina. Ils ont besoin de ça, donc puisqu'on sait qu'ils ont besoin d'adultes significatifs privilégiés, jouons cette partie-là. Ne jouons pas le démago, le camarade, parle-moi de ta mère et parle-moi de tes soucis. Donc ce qui est terrible entre ce problème d'intolérance aux frustrations qui augmente, on va voir pourquoi, et la nouvelle réalité, c'est qu'ils ont besoin de plus de tolérance aux frustrations. Nous, on était des 68ards, mais on était dans les 30 glorieuses. À la fin des 30 glorieuses, on pouvait choisir le métier qu'on voulait. On savait que si on avait un métier, ça durerait longtemps. On savait que si on était amoureux d'une femme, c'était pas forcément pour perpète, mais en général, ça tenait bon parce qu'il y avait moins de sollicitations avec les réseaux et tout. C'était beaucoup plus facile pour nos générations, eux, et on dit, ils ont des problèmes avec le plaisir et le déplaisir, et finalement, il faudra qu'ils changent de travail. Il faudra qu'ils se battent en compétition. Il faudra qu'ils acceptent un contexte social qui est 10 fois plus difficile. Et c'est là que ça ne va pas. Et c'est pour ça que je dis souvent attention, parce que c'est souvent les moins démunis et les plus favorisés qui ont compris cette affaire-là. Parce que si je tiens ce discours-là, c'est ce que vous disiez, d'ailleurs on m'invite pas dans le public, mais si je tiens ce discours-là dans une banlieue défavorisée, là on va me traiter de réactionnaire, d'autoritariste et de facho. Non, je suis en train de dire que si vos enfants ne sont pas éduqués, ça va se creuser le fossé entre les gens qui élèvent les enfants et vous qui les laissez dans un truc complètement démago, peu exigeant, etc. Donc il y a un hiatus entre ces générations dites XYZ et puis la réalité extérieure. Alors, ces générations-là, elles n'ont pas tout faux. Moi, j'appelle la génération, la dernière, la, on va dire la Z. Y, c'était celle qui avait déjà les oreillettes, là, etc. Mais c'est aussi la génération Bataclan, donc elle est sympathique, on le sait bien, elle sait, créative, sociable, elle peut être optimiste, tout ce que l'on veut. Mais il y a des failles. Et les failles, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à freiner une certaine impulsivité, ils ont beaucoup de mal à freiner l'immédiateté, il y a quand même une tendance à majorer leur ego, hein. L'ego passe avant tout le monde, et puis on l'a dit, les grands classiques, devant l'effort et devant l'autorité, ça ne marche pas. Et on reviendra à ça, locus of control dit externe. Alors il y a un petit exemple pour passer là-dessus, c'est ce qu'on appelle la non-performance scolaire. Non-performance scolaire, c'est quelqu'un qui a un fort potentiel, mais qui en fait en fait un minimum. Et ça, en tant que parent, vous avez dû voir que c'est souvent... le cas, il faut tout le temps dire, non, mais c'est pas parce que t'as 13 dans une matière qu'on va se satisfaire, non pas parce qu'on va faire de toi un polytechnicien, mais si on sait que son enfant peut faire 17, c'est que entre le 13 et le 17, il a pas mis la quantité de travail, il a pas mis l'investissement nécessaire pour être à son vrai potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais un collègue australien qui avait fait une enquête auprès de jeunes garçons et jeunes filles adolescents au niveau de ceux qui réussissaient à l'école ou pas. Alors quand on dit performance, c'est pas... tête de classe, hein. C'est celui, je répète, qui est en harmonie avec son potentiel. Et les deux grandes variables qui faisaient qu'un élève était performant ou pas, c'était locus of control interne, ce sont tous des élèves qui acceptent de dire que si j'ai une mauvaise note, en gros, c'est de mon fait, c'est que j'ai pas assez travaillé, c'est que je me suis pas bien pris, j'ai pas assez de méthode, etc. La plupart des autres ont ce qu'on appelle un locus of control externe, c'est-à-dire qu'ils attribuent la responsabilité du succès ou de l'échec aux autres. J'ai pas réussi en maths, le prof est nul. J'arrive pas à lire tel bouquin, c'est parce que on n'aurait pas dû nous donner un truc de 400 pages. Vous voyez, c'est jamais eux, c'est toujours l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que si on écoute toujours les revendications de certains enfants ou ados, on va changer constamment le contexte d'apprentissage, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que le contexte s'adapte à eux. Pas que eux s'adaptent au contexte. C'est pour ça que ou de bien comprendre que la pédagogie centrée sur l'élève de Mérieux, ça n'a jamais été ma tasse de thé, parce que je pense qu'une pédagogie doit être centrée sur les savoirs et aussi centrée sur l'enseignant et sur la transmission, et aussi avec le respect de l'enfant, mais pas centrée sur l'enfant. C'est pas le rôle du pédagogue. Le rôle du pédagogue, c'est de transmettre des savoirs. Et ça, cette histoire de locus of control interne, c'est souvent dérouté par des pédagogies complètement démagogiques qui disent, ben écoutez, si ça vous plaît pas, on va essayer la prochaine fois de passer plus de diapos ou d'illustrer mon propos ou autre chose. Vous voyez, tout d'un coup, on va redescendre d'un cran ce qui ne plaît pas pour pouvoir séduire. C'est ça qui majore le locus of control externe. Et bien sûr, le deuxième variable, c'est notre sujet de ce soir, c'est la grande tolérance aux frustrations. Les élèves les plus adaptés, qui sont en harmonie avec leur potentiel, sont des élèves qui acceptent ce qui n'est pas sympa, ce qui est déplaisant, ce qui est frustrant. Alors, définition frustrant, on l'a déjà dit, c'est tout ce qui est déplaisant, c'est l'effort. Mais c'est aussi la présence de l'autre. Présence de l'autre. Et contrairement à ce que disent beaucoup d'hypothèses actuelles, non, l'empathie n'est pas naturelle, on y reviendra peut-être, l'empathie n'est pas naturelle chez l'enfant. Là, j'ai lu ça chez Alvarez, là, les lois naturelles de l'enfant, on nous dit pendant 50 pages que l'empathie est naturelle. Elle est naturelle chez les enfants anxieux, chez les enfants un peu inhibés, un peu gênés. Ceux-là sont tout le temps en train de se dire qu'est-ce que l'autre pense de moi. Donc ça développe une certaine empathie naturelle par peur. Mais la plupart des enfants que je vois ne sont pas empathiques. Ils pensent d'abord à eux. Et c'est pas par volonté égoïste, ils sont pas là en train de dire non. C'est parce que c'est naturel. Quand il y a un jouet à prendre, on le prend. Non, bien sûr, il y a des expériences qui ont dit que des enfants, quand ils voyaient qu'un enfant n'avait pas de jouet, on lui donnait. Mais alors, moi, j'aimerais bien qu'on me dise combien de milliers d'enfants ont été expérimentés. Mais quand on voit que les fameuses expériences, c'est 45 enfants dans un collège du sud de la Suède, etc., donc on peut faire dire n'importe quoi aux neurosciences, non? J'ai pas dit qu'ils étaient pas. Ils étaient méchants, les enfants. Ils sont ni méchants ni mauvais. Mais justement, la socialisation, l'empathie, ça s'apprend. Alors, on me resserre toujours... l'enfant est bon. Rousseau. Et Rousseau l'a toujours dit le contraire. Si on lit l'Émile, il n'a jamais dit que l'enfant était bon. Il dit que l'enfant sans éducation peut devenir le pire des tyrans. Donc il n'a jamais dit que l'enfant était bon. C'est un contresens. Le mythe du bon sauvage, c'est Montaigne. C'est pas... Non, il n'y a pas de... Voilà, souvenez-vous d'Itard, enfin du docteur Itard avec... comment il s'appelait, l'enfant sauvage de l'Aveyron, quoi. Si, sans éducation, l'enfant était sauvage. Victor de l'Aveyron. Agressif. Des déficiences. C'est l'éducation des exercices du docteur Seguin et d'Itard qui ont permis qu'ils socialisent, qu'ils s'humanisent, et encore, ils ont été au maximum, il a fini dans une institution de fous furieux parce que ça n'allait pas. Donc non, c'est bien la médiation, la présence adulte qui développe un enfant. Ça n'est pas un truc inné, formidable, il suffit de le laisser fonctionner, il va s'épanouir. Ça, c'est des croyances, effectivement, qui arrangent tout le monde. Parce que si on dit que l'empathie, ça s'apprend, ça veut dire que l'adulte doit s'impliquer dans la conflictualité, dans l'exigence. Mais si on pense que l'empathie naturelle, ben, il suffit de regarder les enfants maternels, comme on nous propose maintenant, fonctionner entre eux, et vous dites, ben, ils vont bien développer leur sentiment d'empathie d'une façon naturelle. Ben, je sais pas, c'est souvent dans les maternelles. Moi, quand je vois un petit gros qui écrabouille une petite frêle, je dis vite à la dame, attendez, je crois qu'il y en a une qui étouffe, là. Oh, pleut, vous voyez mal partout, ils vont s'auto-réguler. Ben, un petit gros sur une petite meule, moi j'aimerais bien qu'il se régule très vite, mais c'est rare, si ça le fait beaucoup rire que l'autre s'étouffe. Alors je dis pas, ils sont tous, c'est pas de la méchanceté, ils s'en rendent pas compte, mais non, l'enfant a besoin de médiation adulte. C'est, bon, bref, on est retourné dans les lois naturelles, parce que si on dit les lois naturelles de l'enfant, ben supprimons les adultes. Ben, ils iront en maternelle sans adulte. Pourquoi la frustration? Parce que la frustration, elle a aussi grand mythe dans les neurosciences. Si vous apprenez dans un contexte favorable, vous apprenez mieux. Et les neurosciences nous l'ont dit. On voit bien la transmission des synapses qui est positive. Et bien sûr, quand vous aimez quelque chose, vous apprenez mieux. Mais quand est-ce que ça va pas? C'est quand on n'aime pas quelque chose. J'aime l'allemand, mais s'il faut apprendre une déclinaison allemande, ça se corse. J'aime l'anglais, mais s'il faut faire un verbe, ça se corse. J'aime l'histoire, mais s'il faut que j'apprenne des dates, ça se corse. C'est là qu'il faut aider l'enfant. Et comme disait Piaget, je resterai piagétien, c'était un cognitiviste avant l'heure, c'est bien l'accommodation au réel qui fait qu'on a ce qu'on appelle une équilibration majorante. C'est pas d'assimiler bêtement les savoirs. C'est de heurter l'enfant à un savoir qui le déséquilibre, qui est difficile, qui fait qu'on voit au niveau, là aussi, les sciences disent, toutes les neurosciences peuvent dire l'inverse de ce que l'on dit quand on dit que le positif favorise l'apprentissage, ben le négatif aussi, parce que vous verriez l'arborescence du cortex quand il y a une épreuve et que l'enfant s'efforce de trouver de nouvelles stratégies, là, il développe d'autres circuits. Alors que s'il est tout le temps dans des circuits de confort, ben on appelle ça des autoroutes neuronales. Il va se crétiniser. L'accommodation, c'est la rupture, c'est le déséquilibre, ça n'a jamais été l'assimilation. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans des tas de croyances comme ça, mais qui ont un impact formidable sur la pédagogie. Alors vous allez me dire, mais le rapport avec le sujet? Ben, le rapport avec le sujet est quand même que si on favorise des circuits comme ça dans le positif, etc., vous comprenez très bien que le reptilien, le cerveau émotionnel, va l'emporter sur le cortex, hein, le lieu de pensée, de raisonnement, de confrontation. Et vers quoi va aller l'enfant et l'adolescent s'il n'est que dans un contexte depuis des années de positif, de plaisir, d'assimilation? Il va aller vers tous ces outils de principe de plaisir immédiat. Alors que celui qui a été habitué au déséquilibre, au moins sympathique et tout, bah peut très bien différer une demande de plaisir parce qu'il sait ce que c'est pas si douloureux que ça, et on peut attendre, etc., etc. Donc la frustration, c'est pas simplement au niveau opératoire, c'est bien sûr, on le dira, l'acceptation de soi et le sentiment de l'autre. Alors, les gens intolérants de frustration, et surtout nos enfants, ben, c'est souvent, hein, ça se traduit par des tas de dysfonctionnements comme l'impulsivité, la rêverie. Heureusement que vous m'avez apporté à boire, Monsieur Corbeau, merci. C'est ce qu'ils disent souvent dans leur tête, hein, je veux que ça marche tout de suite. Mais j'ai mis un peu ça, pourquoi? Parce que souvent, en consultation, je vois des gens qui viennent parce que mon fils a du mal à se concentrer. Problème de concentration. Alors bien sûr, maintenant les neurosciences disent, mais s'il y a un problème de concentration, c'est parce qu'effectivement dans le cerveau, quand il y a des interférences, eh ben, le cerveau émotionnel, le reptilien, il a tendance à aller aussi toujours dans ce qui est le plus facile, et il se laisse parasiter facilement par des stimulations externes. Mais c'est pareil, on a beau savoir que le cerveau marche comme ça, si l'enfant n'a pas été habitué à résister aux parasites extérieurs, ben il y a de grandes chances que son cerveau, comme on vient de le dire, va se développer dans le sens fun. Donc les troubles de la concentration, souvent quand les gens me disent « mais je crois qu'il est très dévalorisé, vous savez, il est très angoissé », on fait passer des exercices, ça s'appelle le LPAD de Feuerstein. Les exercices, c'est un peu dur, les exercices qu'on propose, parce que c'est des exercices où l'enfant ou l'ado va échouer. Parce qu'on a repéré que quand on fait passer le fameux WISC, le test d'intelligence de potentiel, chez des enfants, enfin chez des ados, ils sont tous surdoués. Donc nous, ça fait 20 ans qu'on a arrêté, parce que j'en ai marre de dire qu'un enfant à 145 de QI, ça veut dire quoi? Un surdoué, il passe son bac à 12 ans. Et puis il a des problèmes de socialisation tellement il a maturation, tellement il flirte avec le syndrome autistique, mais c'est pas le vrai surdoué, c'est pas celui qui a du mal à avoir ses déclinaisons d'anglais en sixième, et qui est brillant, et qui a un QI verbal extraordinaire. Ça, c'est quelqu'un qui a été hyper stimulé, on en reparlera. Mais ces enfants qui ont des troubles de l'attention, quand on leur demande dans l'exercice, quand ils y jouent, mais qu'est-ce que tu te dis? C'est très rare qu'ils me disent, j'y arrive pas, je me sens dévalorisé, ou ça me fait penser à mon frère polytechnicien, j'ai l'impression d'être nul à sa vie. Souvent, c'est, ça marche pas comme j'ai envie, ça marche pas comme, c'est pas facile, quoi. Et alors, ça me gave, et des fois, il serait de l'anxiété à cause de ça, je vais pas arriver parce que ça me vient pas tout de suite, vous voyez, mais quand on voit leur histoire et je leur dis, mais comment ça se passe? Tes souvenirs déjà dès le primaire ou fin de maternelle et tout, ils me racontent tous la même chose, que c'était... ça marchait bien, quoi. C'était facile. On me demandait quelque chose et je le faisais, et puis à la maison, quand je parlais, on m'écoutait, et puis quand je faisais un autre truc nouveau, j'excellais. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout un souvenir de « oh bah dis donc, alors là, pof !» Je me suis retrouvé devant un exercice d'écriture ou de grammaire, et j'y arrivais pas. Ils ne sont plus habitués à ce qu'on appelle le conflit cognitif, et le conflit cognitif, c'est ce moment où, justement, l'apprenant ne sait plus. Alors, je dis pas qu'il faut leur mettre le nez dedans et les faire échouer exprès, tu vas voir ce que c'est que la vie, les braises, hein. Non, c'est pas ça, c'est, est-ce qu'on les habitue, justement, même dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'il se passe quand tu n'y arrives pas? Pour justement s'accommoder, prendre de nouvelles stratégies et s'habituer à la prise de risque, à l'échec, au renoncement, etc. Et non pas les habituer, on le verra, avec la survalorisation. Alors, pourquoi il y a cette intolérance aux frustrations? On ne va pas faire tout un discours là-dessus, mais il y a quand même du biologique. Vous savez bien, vous qui êtes parents, il y a quand même une grande différence chez nos enfants. C'est pour ça qu'on a souvent du mal. Si on applique la même méthode éducative à tous nos enfants, non, il y a du sur-mesure. Il y a des dénominateurs communs, et ça j'y crois, au niveau de l'acquisition de la frustration, mais il y a de la subtilité aussi après, en fonction de la personnalité. Je n'ai pas élevé ma deuxième extravertie comme j'ai élevé la troisième introvertie. Ma fille extravertie fait toujours lui dire « Attends, ne prends pas tout le temps la parole, écoute les autres, t'es pas toute seule. » L'introvertie fallait toujours lui dire « Alors, t'as été un anniversaire, ça allait être aussi drôle qu'un enterrement, tu... » Ça t'a plu, ça t'a pas plu, vous savez comment ils sont les introvertis qui... Bon, donc elle s'était exprime tes ressentis, dis-nous, parce que c'est ça aussi, partager, etc. Alors que l'autre c'était, bon, arrête de partager, parce que là c'est un peu quand même un peu théâtral. Donc il y a du biologique, mais attention, quand on dit du biologique, il y a des susceptibilités génétiques, il y a des choses comme ça, des tempéraments, mais alors attention, parce qu'en pédopsychiatrie en ce moment, la grande mode, ça va être de vous dire que tout est génétique, puisque les neurosciences découvrent des choses tous les jours. Oui, il y a des choses génétiques, mais de là à dire qu'il faut donner de la ritaline à tout ce qui est hyperactivité et tout, il y a des petits soucis. Quand on entendait parler de ritaline il y a 25 ans, on se disait, bah, c'est les Américains, ça m'étonne pas, ça y est, il y a un truc, il y a un problème, une pilule, ça... Mais oui, mais quand on voit le nombre de diagnostics qui sont faits avec l'hyperactivité et le nombre de médications qui sont prescrites, ça me fait peur. Oui, il y a de vrais enfants hyperactifs et c'est un trouble neurologique de la concentration, ils n'y peuvent rien. Mais quand on vérifie pour certains l'hypothèse éducative, c'est-à-dire ça se passe comment à la maison, et qu'on voit qu'il y a plein d'écrans, qu'on voit qu'il y a plein de stimulations, qu'on voit qu'il y a plein de choses comme ça immédiates, la question, est-ce que ça ne participe pas à cette hyperactivité? Alors je suis très content parce que j'ai pas mal bossé avec celui qui remplace maintenant Marcel Ruffo au niveau pédopsychiatrie à l'hôpital, un des hôpitaux de Marseille, c'est... Da Fonseca, et maintenant il parle à ses élèves, il dit, faut vérifier le syndrome PLEU avant de diagnostiquer l'hyperactivité. Donc je suis très fier. Vérifier le syndrome PLEU, donc c'est de vérifier comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il n'est pas en surstimulation, est-ce qu'il n'est pas avec beaucoup d'écran, est-ce qu'il n'y a pas jamais de temps d'arrêt, est-ce qu'il y a une intervention, est-ce qu'il y a du frustrant, parce que si on est tout le temps dans un pôle d'excitation, il y a de grandes chances que le cerveau prend des habitudes, souvenez-vous, les schémas de récompense qui font que l'enfant va aller là où il se crée les endorphines. Bien sûr. Donc attention à tout ce qui est FASPSY, parce que c'est les surdoués, on va bientôt trouver que c'est le gène 28B de la surdouance, donc hyperactivité. Maintenant on parle de bipolarité chez les adolescents, vous connaissez beaucoup d'ados qui sont pas bipolaires, nous on appelle ça des sautes d'humeur. Non mais on peut tout dire comme ça, un bipolaire c'est quand même grave, ça veut dire des périodes d'hystérie, de créativité, de manque de sommeil, etc., excessives, mais pendant des mois, et ensuite des périodes de dépression très fortes, suicidaires. C'est pas ça chez l'ado, un ado qui va mal le dimanche soir parce qu'il a joué au foot toute la journée, et qui nous fait une grosse déprime après le dernier film de TF1, c'est pas une phase dépressive ça, c'est parce qu'il sait qu'il va retrouver l'école le lendemain. Parce que quand on demande comment ça se passe en vacances, là, il passe 3 semaines sans bipolarité. Pourquoi? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants bipolaires, mais attention, on est en train de psychiatriser la chose, parce qu'effectivement, ça rejoint la même chose. Un parent qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas voir les choses parce qu'il a lu des tas de trucs, oui, il préfère qu'on donne de la ritaline pour calmer la bête que de se dire si j'avais 2-3 conflits par jour en supprimant les écrans. Donc c'est pour ça que je ne l'en veux pas aux parents, mais c'est à nous, les responsables, entre guillemets, qui connaissons un peu l'éducation, les neuros, etc., de dire la vérité des choses. Et c'est un peu ça que j'aimerais, vous avez compris, que j'aimerais partager avec vous. Alors, les déterminismes culturels, on en a déjà parlé, société de consommation, alors carpe diem, moi je suis pas contre. Mais eux, c'est pas carpe diem, c'est immédiateté du plaisir, parce que ceux qui connaissent Épicure, c'était, ça avait rien à voir. Le jouir de la vie, c'était jouir de l'instant présent, c'était jouir d'une présence à l'autre, d'une présence à la vie. C'est pas une jouissance orgasmique immédiate qui donne des endorphines, parce que c'est ça qu'il nous raconte. Quand tu peux pas, t'as quel plaisir là quand tu vois? Ils nous parlent vraiment comme s'ils étaient shootés, comme s'il y avait un shoot, là, parce que tout de suite, je prends mon truc, comme on prend une cigarette, comme on prend un bédo, comme on prend un verre d'alcool. Donc là, on est dans l'immédiateté. Alors, au niveau socioculturel, je vous en avais parlé, c'est vrai que les anthropologues ont fait pas mal d'enquêtes, surtout chez les anglo-saxons. Et je sais pas si on voit bien sur la pyramide, mais en haut, ça s'appelle la néontocratie. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des cultures en ce moment où l'enfant est complètement en haut de la pyramide des âges. C'est une sorte de déité, quoi. Et les grands-parents, hein, tout est en bas. Mais eux, dans les sociétés dites primaires, c'est la gérontocratie, c'est-à-dire que celui qui est le plus haut, c'est l'ancêtre, ce sont les parents, ce sont les adultes. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser l'enfant, mais c'est complètement inversé. Et ça, je crois que malheureusement, dans nos contextes dits de déontocratie, c'est tout est fait pour l'enfant, tout est fait pour le jeune, tout est fait pour qu'il soit heureux dans son enfance. Oui, mais être heureux, si c'est être heureux sans éduquer, etc., on va en faire quelqu'un de malheureux. Et c'est ce que je vous disais dans ces cultures dites primaires, non pas dans les sociétés guerrières ou injustes, mais dans les sociétés primaires qui n'ont pas de soucis industriels, etc. L'enfant n'est ni un objet, c'est pas un objet, on le considère pas comme un esclave, mais c'est pas non plus un petit roi. Je vous ai dit qu'il y avait la Toddler rejection, c'est ce côté, s'il est caractériel, s'il est trop offensif, on le rejette immédiatement de la communauté. Ce sont ce que les anthropologues ont vu comme déterminateurs communs dans toutes ces sociétés-là. Ils aident aux tâches ménagères dès qu'ils sont petits. Très très tôt, dès qu'il y a l'acquisition de la marche, ils vont ramener un bol de ceci, ramener une cuillère par là. Ils font quelque chose toujours pour l'autre. Quand je demande à les enfants, etc., mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est oui, il est trop jeune. Quand je demande à un ado, qu'est-ce que tu fais? On me répond, je suis ado. Bon, parce que il doit y avoir une règle qui fait que l'ado fait rien, quoi, c'est sûr. Et c'est là qu'on voit, pour les ados, ben, les parents, comme on dit, les parents taxi, hein, parents blanchisseurs, parents restaurateurs, parents hôteliers, parents banquiers. Alors après, ils se plaignent que l'enfant est roi, mais c'est un client. Donc il y a de grandes chances qu'il soit roi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'oblige pas certains résultats scolaires pour avoir de l'argent de poche? C'est pas du chantage, c'est une conséquence. Quand on est salarié plus tard, on a bien une récompense parce que l'on travaille. Pourquoi n'inclut pas très tôt ces petites choses-là que les sociétés dites primaires ont inclus très très tôt? Tu veux participer au repas, mais même petit, on te montre que tu as fait quelque chose. Quand ils jouent, ce sont toujours des jouets sociaux. Alors là, bien sûr, ça va à l'antithèse de tout ce qui est, même quand ils nous disent, je joue en ligne. Non, c'est pas un jeu social, ça, de jouer en ligne. C'est écran contre écran. Un jeu, c'est Monopoly, c'est des jeux de je sais pas quoi, c'est des échanges. Un jeu social. Et toutes ces sociétés-là n'ont que des jeux où on favorise l'empathie, la reconnaissance de l'autre, ce qu'il pense pas. Jamais des jeux individuels. L'intelligence émotionnelle, on l'a dit, elle est développée. C'est-à-dire, on ne parle que de ça. Qu'est-ce que tu fais pour l'autre? L'autonomie, mais attention, l'autonomie dans le sens, est-ce que tu es capable de te débrouiller toute seule dans des zones qui sont pas faciles? C'est ça qu'ils incluent très vite, hein, au niveau non seulement de l'habillement, de l'hygiène, mais aussi est-ce qu'il va être autonome pour pouvoir cueillir, je sais pas quoi, une figue, s'il y a un figuier. Et c'est ça qu'ils recherchent. Alors que très souvent, quand je demande aux parents où est-ce qu'on en est au niveau autonomie, on me dit, oh ben il est très autonome. Et quand je demande à l'ado, mais il est autonome en quoi? Eh ben, il s'achète ses fringues, il s'achète ses sandwichs, il va tout seul dans le frigo, il organise ses loisirs. Non, ça, c'est l'autonomie dans le plaisir. Est-ce qu'il est autonome devant un devoir de grec? Est-ce qu'il est autonome quand il fait du solfège? Est-ce qu'il est autonome quand il faut qu'il aille à l'entraînement? C'est ça, l'autonomie. Ah, oh ben non, là, c'est tout un circuit, il faut le ramener. Voilà. Donc, il faut pas confondre. L'autonomie, c'est bien sûr l'adaptation à la réalité. Et surtout, il y a quelque chose dans ces cultures-là qui est intéressant, c'est que l'enfant ne peut pas être heureux. Nous, c'est tout l'inverse. La période de l'enfance doit absolument être heureuse parce qu'on nous a dit depuis les hypothèses psychanalytiques que si on rate ces marches-là, souvenez-vous, tout est joué avant 6 ans, ça sera foutu pour toute sa vie. Donc eux, ça doit être des primitifs, ils n'ont rien compris. Mais eux, ils pensent très vite que non, il ne peut pas être heureux puisqu'il n'est pas à maturation. Il sera heureux plus tard et si vous entendez bien des enfants heureux, justement, c'est étonnant quand on avait fait une enquête avec des collègues psychologues, les enfants qui se disaient heureux disent toujours ça va, mais vivement que je sois adulte. C'était toujours ça qu'il disait. Les enfants, les autres dont je parle, qui sont souvent intolérants, frustrations, qui ne veulent pas s'adapter au monde adulte et vivre les contraintes adultes, eux, ils ont une vie déjà très heureuse. Et après, on voit ça, nous, en psychothérapie. Les psychothérapies, l'état d'adultes qui ont la nostalgie de l'enfance. Qu'est-ce que c'était bien quand j'étais enfant? Mais ça paraît être bien, l'enfance. L'enfance construit, mais l'enfance, c'est effectivement se dire... je suis en maturation et plus tard, je vais avoir plus de liberté, plus de loisirs, plus de choses. Mais si j'ai tout avant, il y a de grandes chances que ça va être très dur au niveau du principe de réalité. Et dans ces civilisations-là, il n'y a pas de crise d'adolescence. Donc ça, je vous renvoie sur un livre que j'avais écrit qui s'appelle « Génération Dolto » où je pense qu'il y a des adolescents en crise, mais quand on me fait croire que la crise d'adolescence est une étape incontournable de rébellion, de prise de risque, de se confronter à l'autorité, si vous ne faites pas ça, ça s'exposera plus tard. Je pense que tout le monde a fait une crise d'adolescence ici. Ben non, c'est une grande invention de la psychologie classique. Il n'y a pas besoin de se rebeller pour exister, il n'y a pas besoin de fumer 40 bédos pour savoir que la dope, ça rend un peu con. Il n'y a pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Parce que en disant ça, ça veut dire qu'il faut surtout pas d'adultes à ce moment-là. Quand Ruffaut nous dit « détache-toi », ça veut dire si un adolescent crise, mais laissez-le expérimenter dehors, laissez-le avoir une chambre en ville, laissez-le. Non, non, moi je dis rattachez-le. Plus d'adultes. S'il en est à criser, c'est qu'il a, du mal avec la réalité, il a du mal avec le plaisir. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le castrer, l'inhiber, c'est-à-dire qu'il faut l'accompagner, l'éduquer. Et on dit toujours l'inverse. Non, non, pas trop de parents. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a énormément de parents en protection en bas âge, mais au moment où l'enfant en a le plus besoin à l'adolescence, il n'y a plus de parents. Non, 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 c'est à l'adolescence, à la préadolescence que l'enfant a besoin d'adultes significatif, privilégié, des gens qu'il peut admirer, des gens qui transmettent, des gens qui apprennent, des gens qui sont des modèles. Alors donc, vous êtes bien, sans doute vous avez bien compris que je pense qu'il y a quand même une grande influence éducative, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des déterminismes familiaux, ça ne veut pas dire que parce qu'on a raté telle étape d'éducation à 4 ans, que mon enfant va être complètement dysfonctionnant 10 ans plus tard. Non, non, l'enfant est extrêmement modifiable, et vous l'avez vu, et l'enfant peut rencontrer ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, de nouveaux mentors, de nouvelles personnes qui vont le construire. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Mais quand même, si vous vous souvenez de l'enquête de Michel, c'était l'enquête des chamallows ou des marshmallows, je ne sais plus comment on dit en français. Vous savez, c'était l'expérimentation où on met dans une assiette de chamallows et puis on dit aux enfants, des enfants de 4 ans, si tu les manges pas tout de suite, tu en auras le double tout à l'heure. Effectivement, 80% des enfants échouaient et mangeaient les deux chamallows, et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'était les 20% qui ont différé. Et les 20% qui ont différé, c'était pas du tout de l'inné, un don, c'était tous les enfants disaient, bah, j'ai fait comme me dit souvent papa ou maman, quand j'ai envie de quelque chose, bah, je pense à autre chose. Hein, je diffère. Ou effectivement, bah, je suis habitué à ça quelquefois, bah, vaut mieux attendre le goûter que de manger un bonbon tout de suite. Parce, voilà, ils avaient simplement appris que de différer une demande immédiate, bah, ça apporte ce qu'on appelle, nous les adultes plus tard, un hédonisme à moyen ou long terme beaucoup plus fort que l'immédiateté. Donc ce sont des apprentissages. Et en plus, quand Michel a refait ce livre-là il y a 2 ans, l'Américain qui avait fait les expériences il y a 40 ans, eh ben, il a suivi chronologiquement tous ces enfants qui avaient réussi le test dans ces nombreuses expérimentations, et tous avaient une socialisation très positive. Au niveau familial, ça tenait la route, et bien sûr au niveau social aussi. Donc il y a quand même un lien de cause à effet entre les enfants qui ont appris très très tôt à gérer cette histoire de différer, d'attendre, de penser aux choses, et ceux qui sont malheureusement non éduqués et qui vont filer dans l'immédiateté. Alors, il y a aussi des croyances psy qui gênent souvent nos attitudes éducatives. Bon, là, je pense pas qu'on ait le temps de rigoler avec Dolto, on va rigoler avec autre chose plus tard, mais c'est vrai que dans les croyances, il y avait quand même cette histoire que l'affreux Jojo, c'est quelqu'un de bien. On nous a souvent lu ça en psychologie classique, hein, que si l'ado s'exprime bien et fort, très affirmé, c'est un bon signe. Eh ben moi, je préfère relire ce que disait Platon, parce que c'est quand même assez sympa quand il dit que les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne. Alors là, c'est là, en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Je le crois aussi profondément. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que c'était quelque chose de... D'où ça vient, cette histoire de besoin de l'adolescent ou de l'enfant d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Et chez nous, c'est vécu comme quelque chose, je répète, d'autoritariste, de fascisant, de castrant, etc. Non, de tout temps, ça a été dit, un être en maturation a besoin de rencontrer un modèle, quelqu'un qui l'instruit, qui exige, qui demande, etc. Donc l'hypothèse éducative, j'y crois beaucoup. C'est ce que j'appelle le complexe de Thétis. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Thétis. C'était cette déesse que Zeus avait condamnée à retourner sur Terre avec ses enfants. Et Thétis, la déesse Thétis, s'est forcée de rendre ses enfants de nouveau immortels. Elle voulait que ses enfants redeviennent des dieux et, par exemple, être trempée tous les matins dans l'eau du Styx, je ne sais pas si on voit bien, son fils Achille. Ça voulait dire symboliquement que si je tente d'éduquer mon enfant d'une façon un peu plus dure, un peu plus difficile, je vais le rendre plus fort. Et vous savez bien comment ça s'est terminé. Le talon d'Achille n'a pas été baigné dans l'eau du fleuve, d'où sa vulnérabilité. Je crois beaucoup à ça. Je pense que si on n'inclut pas du difficile, du frustrant, il y a une très grande vulnérabilité chez l'enfant. Mais attention, tout ça, en équilibrant cette exigence-là, avec bien sûr de l'affection, de l'amour, de l'empathie et du respect. Pas l'un sans l'autre. Mais ce que je vois souvent, c'est que quand je pose la question « qu'est-ce qu'il y a eu de déplaisant le week-end dernier pour un petit enfant ? » Est-ce qu'ils ont fait des choses un petit peu déplaisantes, c'est-à-dire ou du rien, ou quelque chose pour les autres ? Ben, la réponse, c'est souvent « on cherche, quoi, parce qu'il n'y a pas d'aide au niveau des petites routines ménagères, mais il n'y a pas non plus de participation au week-end à quelque chose pour les autres. Et il y a souvent un côté Club Med. Oh, ben, vous savez, on les voit que le week-end, donc faut bien animer. » Non. Et ça donne ce qu'on appelle un complexe. C'est-à-dire, si c'est déséquilibré entre le plaisir et le déplaisir, l'enfant rentre dans un principe hors réalité. Donc, c'est équilibré qui empêcherait ce complexe-là. Donc, équilibré plaisir et déplaisir, on l'a dit, c'est bien sûr la médiation de l'adulte. Et ça rejoint ce que je vous disais en introduction, c'est cette fameuse autorité en amont. L'autorité en amont, ce sont les petits exemples, c'est justement où est-ce que le parent peut intervenir à un moment donné? Alors, je prends simplement des petits exemples comme ce que j'appelle les 5 S. En premier, c'est la surconsommation. On peut intervenir. Surconsommation, ben, ça on le sait avec les écrans. Alors, s'il y en a qui sont intéressés par ça, il y avait un Canadien, Jérôme Bacan, qui avait fait toute une enquête sur les jeunes et les adolescents qui mangent trop d'écran. Alors, en fait, c'est très, très inquiétant, effectivement, au niveau du développement neuronal, au niveau de l'hyperactivité, au niveau des troubles de l'attention, etc. Donc, faut pas prendre ça simplement comme un loisir normal. Non, c'est un loisir dangereux, destructeur, parce qu'on sait que ça a un impact sur le développement neuronal, etc. La consommation, la surconsommation, ça ne veut pas dire qu'il faut rester zen et ne rien toucher et ne jamais se faire plaisir. C'est simplement des enfants qu'on laisse marcher à l'envi. Ils vont devenir très impulsifs et intolérants. Alors regardez, qu'est-ce que ces enfants se créent comme représentation? Imaginez un enfant qui n'a aucun interdit au niveau d'écran, au niveau de stimulation immédiate, au niveau de jeu, de plaisir immédiat. Il développe ce qu'on appelle des schémas, des schémas cognitifs, des représentations dans sa tête, mais tout devient dans le sens où la vie doit m'apporter tout de suite et doit me procurer du plaisir. Vous allez voir ces enfants-là qui sont tout le temps insatisfaits. Ils ont fait quelque chose, pouf, il y a une chute, et puis il faut qu'ils redemandent encore autre chose. C'est-à-dire, là, il y a vraiment une addiction au plaisir. Ils ne peuvent pas redescendre. Donc effectivement, pour avoir une trêve sociale à la maison, le parent a tendance à redonner autre chose. Ou à redéfinir une activité. Non, on retombe à ce moment-là dans la réactivation du cerveau reptilien, toujours plus. Et ces enfants-là, malheureusement, quand on leur enlève leurs produits, et vous avez dû voir ça, il y a certains adolescents, quand on enlève un écran, mais c'est un drame. Oui, si vous fermez, l'ordinateur en plein jeu, ils peuvent piquer des colères terribles. Terrible, parce que là, en ce moment, ils sont dans le reptilien, ils sont dans un manque. Donc, il y a des pathologies, voire de dépression ou d'angoisse majeure, qui viennent de cette surconsommation. Alors, c'est pour ça, si on se borne qu'à parler d'écran, on va attaquer les écrans, mais moi, je dirais, attaquer en amont, parce que si un enfant fait 2 heures d'écran, mais si avant, il a fait du ping-pong à 2 heures, s'il a fait un jeu à 15 heures, et s'il a fait autre chose à 16h30, s'il est tout le temps, puis il a mangé tel truc, et puis il a grignoté tel truc, et puis... Mais s'il est tout le temps dans le principe de plaisir, je vois pas pourquoi il serait pas addict à l'écran vers 18h30. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'autorité en amont, c'est est-ce qu'on peut pas intervenir avant pour dire, je suis désolé, il y a des choses où on peut attendre. Non, pas tout de suite. Non, le goûter, on a dit telle heure. Non, là, il y a un rythme scolaire à avoir. Non. C'est un entraînement à ce moment. Vous voyez, c'est, on peut freiner cette histoire de jouir immédiatement de choses plaisantes. Il n'y a pas que la surconsommation, il y a la surstimulation, et qui rejoint souvent l'hyperactivité. C'est proche, c'est pas simplement je consomme pour jouir des choses, c'est ces enfants-là ne savent absolument pas ce que c'est que le rien, l'ennui. C'est embêtant, et très souvent, ils font tellement de choses qu'ils deviennent ce qu'on appelle des enfants ado orchestre, c'est-à-dire que quand je leur demande à un moment donné, quand ils sont démotivés, quoi, oh, vous savez, il est en seconde, on lui demande ce qu'il veut faire l'an prochain, mais il sait pas, donc on essaie de passer des tests d'orientation ou de personnalité, mais surtout quand je questionne l'ado, mais t'étais bon en quoi? Qu'est-ce que t'aimais? Ils savent plus. Ils ont touché à tellement de choses, ils ont touché à 5 sports collectifs, 10 sports individuels, ils sont passés de, je sais pas quoi, du jonglage en passant par le badminton, de la poterie en pas... C'est fou ça, tout ça parce que comme ils faisaient du zapping, comme le ça doit être plaisant, ben les parents croyaient que c'était par démotivation ou ras-le-bol ou qu'il fallait changer, alors que c'était simplement au moment où l'activité devenait frustrante. J'arrête le piano parce qu'il y a trop de solfège, j'arrête l'entraînement de football parce qu'il y a trop d'entraînement et je peux pas être avançante. J'arrête telle activité parce que ça devient exigeant. Et c'est là qu'il faut tenir bon, c'est là qu'il faut tenir bon pour leur dire ben non. Non, il y a des moments dans la vie où on fait rien du tout et ils habituent à des routines, à du déplaisant. Sinon, quelqu'un qui est surstimulé, ben, faut tout le temps que ce soit motivant et enrichissant. Et je vois ça dans les pseudo-surdoués que l'on voit maintenant dans les classes primaires, quand les enfants me disent, mais pourquoi c'est, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent ça inintéressant. Mais quand je demande aux parents comment ça se passe chez vous, ils sont tout le temps en train de lui parler de sujets adultes, sont tout le temps en train de lui parler de choses, en gros, que j'ai envie de dire, qui ne le concernent pas forcément. Alors, vous voyez, un instituteur va parler du roman de Renard, alors que la veille, on a parlé de l'angoisse de mort chez la grand-mère avec ses parents. Donc, il y a un truc qui va pas, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler tout le temps bêtement aux enfants, mais est-ce qu'on n'est pas en train, de temps en temps, de parler trop vite d'un cyclone Irma et des effets écologiques du manque d'ozone, etc. Ce sont les enfants. Tous les enfants que je vois qui ont des angoisses de mort, à chaque fois que je leur demande, mais d'où ça vient ça? Bon, on en parle souvent à la maison. Oui, d'accord, on peut en parler, mais le petit chat est mort, on peut pas parler du paradis des chats, au lieu de parler de la finitude chez l'animal. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut les crétiniser, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tout le temps les considérer au même niveau, et on va leur donner des angoisses d'adultes, et puis ça les met dans quelque chose de... La relation à l'autre doit être enrichissante. Mais non, elle n'est pas qu'enrichissante. À l'école, elle est quelquefois déplaisante. Et c'est ça que j'essaie de dire en disant, oui, il faut de l'enrichissement, oui, il faut de la stimulation. Mais il faut aussi des choses où, ben non, non, je te parle pas ce soir parce que je parle à ta maman ou je parle à ton grand frère et puis c'est comme ça. Mais ça, on n'ose pas trop le faire. Il y a aussi ce qu'on appelle la survalorisation. Alors ça, vous avez dû entendre parler de ça, le renforcement du positif. Si on ne dit pas à un enfant que c'est bien... Le pauvre, il va s'écrouler, mais c'est comme ça que j'ai vu des standing ovations chez les enfants, vous savez, qui faisaient des styles guignols, des petites choses comme ça. Bon, à mon époque, on avait droit à 5 minutes, c'était pas beaucoup. Mais là, j'ai vu des théâtres d'enfants en famille un dimanche qui duraient 1 demi-heure, 40 minutes, et les adultes se levaient pour bisser le truc. J'ai pas dit qu'il fallait dire c'est nul, mais enfin, entre ça et passer tout un après-midi, bon, c'est un peu comme quand il y a un cognier de nouilles, on parlait de des proches tout à l'heure, mais enfin... Collier de nouilles à la fête des mamans, on va pas dire c'est horrible, mais on n'a pas non plus à dire que c'est une œuvre maîtresse, quoi. Un collier de nouilles, c'est un collier de nouilles. Non, mais c'est toujours comme ça. L'autre fois, il y avait une petite qui dessinait, la maman montre ses dessins. Elle devait croire que je voyais le marc de café là-dedans. Donc oui, montrez-moi ses dessins. J'ai dû faire la bouille. Et la maman dit, ils sont pas beaux ces dessins. Elle avait 6 ans, la petite. Non, pas franchement. Et puis après, bon, je parle avec la maman, elle va dans la salle d'attente, puis je vois la petite Fifi, et je dis, parce que tu le trouves beau, toi, le dessin, elle rigole un peu. Et puis je lui demande, j'ai des feutres, tout ça, et je lui demande de me faire un beau dessin. Vous l'auriez vu tirer la langue, s'appliquer, ne pas essayer de déborder les petites choses, parce que c'est des dessins, vous savez, à colorier, là. Et après, quand je lui disais, quand elle a fait son petit truc en 5 minutes, mais en s'appliquant, que j'ai montré les dessins qu'avait montré la maman, je dis, mais qu'est-ce qui est beau, là? Ben, elle m'a montré, bien sûr, ceux où elle a tiré la langue. C'est ça la survalorisation. L'enfant, il sait très bien quand il a dépassé dans tous les sens, qu'il a fait n'importe quoi. Il sait très bien quand il s'applique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps renforcer le positif quand c'est gentil, bien fait, scout ou je sais pas quoi. C'est pas ça que je dis. Mais arrêtons de valoriser ce qui n'est pas valorisé. Arrêtons de, oh là là, vous avez vu comment il parle, oui, 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 c'est pas mal. Bon. C'est toujours pareil, ne retournons pas aux blouses grises, on ne nous demandait jamais rien, on n'écoutait jamais, non, ça c'est stupide. Mais la survalorisation fait qu'ils ont des représentations dans leur tête, faut tout le temps qu'ils soient au centre du monde, tout le temps qu'ils soient reconnus, appréciés. Et dès que ça va pas, dès qu'un enseignant ne fait pas un compliment, dès qu'un copain se fâche, dès que la petite copine le regarde, etc., c'est une catastrophe parce qu'ils sont tout le temps habitués à un système de cotation. Pour exister, je dois obtenir l'approbation de l'autre et la valorisation de l'autre. Et puis il faut faire attention à la survalorisation, parce que comme me disait un petit Alexandre, il avait 14 ans à l'époque, ou je sais plus, 15, il me disait, ben alors on nous a fait faire du vélo en Hollande pendant des mois, et maintenant c'est l'Alpe d'Huez, quoi. Donc ils sont pas dupes. Tu sais, cette histoire de toujours exiger faible. L'enfant, il sait très bien qu'il aura un sentiment d'imposture à un moment donné, il sait très bien que c'est facile. Quand je vois l'autre fois un jeune adulte qui pestait parce qu'on faisait une évaluation pour Renault Trucks pour des embauches, et il comprenait pas, il dit « mais j'ai un bac pro, moi pourquoi je suis pas technicien ?» Parce qu'un bac pro, c'est un CAP. Pourquoi on a dit le terme baccalauréat pour être gentil ? Mais la réalité, quand il arrive dans l'usine, bah, le bac pro, ça va être le manutentionnaire. Le technicien, c'est celui qui a un bac technologique et qui a 2 années de BTS. C'est ça qui est scandaleux. C'est qu'on leur fait croire pendant des années que tu seras un futur bachelier pour leur dire boum après, comme on fait croire à quelqu'un qui a une mention très bien en 2017 que ça va être facile de faire médecine. Non, si c'est une mention très bien en bossant 8 heures par semaine au lycée, il y a de grandes chances que quand on demandera 4 heures par jour en médecine ou 3 heures en droit ou je ne sais quoi, ça ne va pas marcher. J'ai pas dit qu'il fallait que tout le monde soit médecin, architecte, je ne sais quoi, mais c'est le rêve. C'est quand est-ce que ça va arriver, cette réalité de quantité de travail et de choses dites frustrantes. C'est pour ça que tout ce qui est de genre de la pédagogie très démago, moi je trouve ça très scélérat pour les élèves. Donc pour mon histoire de survalorisation, bah oui, on a le droit de dire les forces et les faiblesses d'un enfant. Ça s'appelle apprendre l'acceptation de soi, c'est-à-dire je n'ai pas à te leurrer. Si tu mesures 1m50, je vais pas te dire que tu pourras jouer au basket. Si tu n'as pas l'oreille totale, je vais pas te dire que c'est excellent quand tu fais une fausse note. C'est pas dire non plus que tu es nul, tu n'y arriveras jamais. C'est, attention, ça n'est pas dans ton potentiel, ça n'est pas dans tes talents. Est-ce qu'on peut dire les choses? On parle d'estime de soi de l'enfant, valorisation, cotation, mais je répète, quand on enlève la bonne cote, ça s'effondre. Nous, on parle d'acceptation. Acceptation, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Tu as beaucoup de mal à travailler, tu as beaucoup de mal avec cette histoire de différer le plaisir, ben ok. Ça s'appelle l'intolérance aux frustrations. C'est pas une pathologie dont on se sort pas. Mais je vais t'aider en tant qu'adulte à te sortir de là, comme on dirait un enfant diabétique. Tu vas avoir moins de sucre. La surprotection, on a déjà évoqué ça. Ça veut dire, vous devez le voir de temps en temps, vous les enseignants et quelquefois nous les parents, combien de fois on a ce réflexe quand notre petit a un souci de tout de suite envisager qu'est-ce que le prof a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quoi. Il y a toujours ce soupçon sur l'autorité adulte. Alors, je dis pas qu'il fallait être comme dans le temps où mon père disait à mon instit, carte blanche. Il était à fond avec l'instit pour surbaffer la baffe. Mais entre ça et tout le temps prendre l'enseignant comme bouc émissaire de quelqu'un qui a encore fait quelque chose de mal parce que son enfant a du mal à l'école, est-ce qu'on peut pas d'abord se poser la question, pourquoi mon enfant ne s'adapte pas même avec un mauvais prof? C'est ça l'adaptation. C'est pas de s'adapter quand il y a que des bons profs, c'est de s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut apprendre des maths avec un prof qui a peut-être des difficultés pédagogiques, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas revoir la pédagogie de l'enseignant, mais ça veut dire aussi que l'enfant doit aussi apprendre que le monde ne s'adapte pas tout le temps à lui. Plus tard, il aura peut-être un chef autoritaire, il aura peut-être un partenaire injuste, il aura peut-être un marché difficile, c'est ce qui arrive au niveau économique. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de tout le temps adapter? Et ça s'appelle la surprotection, c'est-à-dire je ne veux pas de la réalité qui te fait souffrir, mon enfant, donc, souvenez-vous, locus of control externe, il faut que l'extérieur change pour que tu sois mieux. Bien, je ne pense pas. Et puis il y a bien sûr la surcommunication, ça c'est le côté parler, 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 il faut parler, parler. Si vous entendez les ados me dire, mais est-ce qu'ils vont me dire oui ou flûte? Monsieur Pleu, c'est 20 minutes de discussion pour savoir si je sors vendredi ou pas. Qu'est-ce que tu voudrais ben, qu'ils me disent oui ou... Ben voilà, ben, t'as la recette, et ben, ils te diront la prochaine fois. Mais c'est dur, c'est pas facile à dire ça, mais on rentre dans des grandes plaidoiries, et les ados sont beaux pour les plaidoiries. Si vous commencez à parler du système neuronal déficitaire, s'ils regardent trop les écrans, si vous ils vont vous plaider pendant des heures qu'ils ont vu sur l'internet l'inverse. Si vous... Ne plaidez pas. Non, bah chez moi c'est comme ça, il n'y a pas d'écran parce que ça rend con, point, terminé. On n'en cause plus. Et Rousseau disait quelque chose juste à propos de la surcommunication. Il avait bien vu que l'enfant est un homme en maturation. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité, ni saveur. Et qui ne tarderont pas à se corrompre. Nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfants. Il y a des choses pas mauvaises dans les villes. Donc tout ça veut dire que si on ne fait pas attention à cette histoire d'intolérance aux frustrations, ben l'enfant peut devenir roi, et ça c'est une image qui était dans Life Magazine il y a quand même une cinquantaine d'années. Oui, c'est pas tout nouveau, le phénomène de la toute-puissance de l'enfant, mais je crois beaucoup que tout ce qui développe trop du principe de plaisir développe trop l'ego. On appelle ça maintenant les nouvelles pathologies. Nouvelles pathologies, c'est intolérance aux frustrations, tout ce qui est déplaisant, je veux pas, mais c'est aussi tout ce qui me heurte, c'est crime de lèse-majesté. Il faut que je sois aimé, apprécié. C'est fou quand on entend un ado dire « J'ai encore eu 5 likes aujourd'hui. » Et alors, c'est ta valeur, ça. Oui, c'est terrible. Les comptes, s'ils en ont 5 en moins, ça devient un drôle de truc. Donc je crois qu'il faut faire vraiment une médiation en disant « Mais tout ça, c'est de la bêtise, tout ça. » Non, on n'en veut pas. Alors bien sûr qu'on passera pour ringard, je ne sais quoi, ou rétrograde. Et tout. Ben, c'est ce que je pense. Et souvenez-vous qu'un ado préfère quelqu'un d'injuste, de je sais pas quoi, que le jeunisme, c'est-à-dire le parent qui dit « mais je comprends bien, c'est un... » Non, non, ils vont pas vous dire sur le moment « ça me construit, ça me frustre, bien, j'ai besoin de ça », il va vous faire la bouille. Mais moi je sais bien dans les confidences qu'ils ont quand je les vois, ils disent « bah écoutez, depuis que vous aviez mes parents de sous quai ferme, c'est vrai que c'est pas marrant, mais j'en avais besoin ». Ils nous disent tous ça, mais c'est vrai que c'est l'inverse, quand on laisse filer, c'est là qu'il y a le mépris des parents. Le mépris, c'est souvent ce que j'entends. Malheureusement. Donc attention, il y a une histoire de développement, parce que si un enfant roi n'est pas arrêté, ben ça sera un adulte roi qui n'est pas non plus arrêté. Là, on a des bons exemples. Il y a la personne dont je vous parlais aux États-Unis, là, comment il s'appelle, Weinstein, etc. Et puis, ben notre ami Cahuzac. Bon, voilà, c'est un peu vieux, mes diapos. Maintenant, j'en ai d'autres, sous le coude, sans doute, des personnes comme ça. Il y en avait un qui était archi connu. Qui était quand même pas mauvais. Il y a même, comment il s'appelle, Obama, qui avait bien repéré qu'il y avait des grosses difficultés. Il retient sa main, je sais pas si on voit bien, mais... Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai qu'au lieu de dire qu'il y a une maladie qui pouvrait, qu'il y a eu des vécus infantiles qui n'étaient pas terribles, non, ce sont tous des gens, quand on regarde bien leur histoire, leur biographie, ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais eu, justement, d'adultes ou de parents qui ont dit « Stop là, mon coco, il y a ça à faire ». Tous, ils racontent la même chose. C'était très libre chez moi. Ils ont épanoui ma personnalité. Je pouvais faire ce que je voulais. J'étais très créatif, multitâche. Ils ont tous le même parcours, brillant en général bien sûr, mais se sont dépatouillés pour ce qui est jamais, n'y ait jamais d'interruption, de confrontation, de mentors justement, de gens qui les mettent un petit peu dans des limites. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que je me méfie souvent des gens qui me parlent très souvent de Nietzsche en disant « mais oui, la volonté de puissance est quand même formidable, hein, de se débarrasser ni Dieu ni maître ». Oui, mais quand on regarde bien la volonté de puissance, ça se transforme souvent en toute puissance. Faut pas oublier que dans Ecce Homo, le dernier livre de Nietzsche, il disait que les sentiments les plus délétères, c'était l'empathie et la compassion. Un philosophe qui nous dit ça s'en dit beaucoup sur sa conception de l'homme. L'empathie, la compassion, des sentiments qu'on doit mettre de côté pour la toute puissance de l'ego. Non, et je crois qu'on est encore dans cette philosophie-là. On est dans cette philosophie de l'ego. Non, où est-ce que c'est écrit que l'ego doit s'épanouir? L'ego doit vivre sa vie, sa particularité, on est d'accord, mais avec l'autre. Et c'est ça qu'on essaie d'enseigner dans cette histoire de tolérance aux frustrations. Tu n'es pas tout seul, donc l'autre existe. Qu'est-ce que tu fais pour l'autre? Là, ça va être la période de Noël, je vais commencer à demander aux ados que je reçois, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils prévoient à chaque fois? Si, c'est important ça. Je me souviens que quand on était petit, il y avait Noël, mais après il y avait les étrennes. C'était à nous, aux étrennes, de faire des cadeaux à ses frères et sœurs et aux parents. Toutes ces petites choses-là qui étaient, ça n'existe plus, ça. Alors on va dire, ouais, mais c'est un temps ancien. Non, on a besoin de ça. Et on le sait maintenant dans la psychologie dite positive que la gratification, la reconnaissance, l'empathie, ce sont des choses qui amènent beaucoup de bonheur à l'être humain. Mais ça donne pas un bonheur immédiat. C'est ça qui ne va pas et qui est antinomique avec ce que veut un ado. L'ado veut du tout de suite. Mais si on lui montre qu'effectivement, en faisant des petites choses comme ça, on est plus heureux, on gagne. Et c'est facile quelquefois avec un enfant. C'est ma petite fille qui a 5 ans, là, la fille de mon fils aîné, je dis pas qu'elle est partante si je lui dis, comme l'autre fois, on va ramasser des pommes. Parce que le jardin, il est un peu en truc, que c'est décalé, c'est pas facile d'accès, etc. Et puis c'est vrai qu'il avait plu, donc c'était il y a une dizaine de jours. Bon, ben voilà, fallait mettre les bottes, donc faut mettre les bottes, parce qu'on descend pas, bien sûr, en chaussures de ville. Il faut ramasser les pommes, c'est humide, etc. Et puis c'est un peu lourd. Oui, mais on ramasse les pommes. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je pèle les pommes. Et puis elle m'aide un petit peu, elle, pour les couper en petits morceaux, puis on les met dans une petite marmite pour faire quoi? Pour faire de la compote de pommes. Donc après on fait la compote de pommes, mais quand on a fait la compote de pommes, là ça devient plus intéressant pour elle, vous voyez, elle commence à participer et tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait quand son papa et sa maman reviennent? Eh ben on offre un petit pot de compote de pommes. C'est ça l'hédonisme à moyen et long terme. Mais c'est vrai que elle peut être aussi devant un écran, je sais pas quoi, quand il emmène au restaurant pour être tranquille. Vous voyez, nul n'est prophète en son pays, même mon fils, il faudrait qu'il relise certains chapitres du self-control. Non, c'est pas parce qu'un enfant attend resto qu'il faut qu'il ait aussitôt un truc. Non, c'est une fausse paix, ça, c'est acheter une trêve. Mais dans ce cas-là, vous croyez qu'elle est sympa quand elle a son écran dans un coin, soi-disant pour être plus tranquille? Non, au bout de 5 minutes, l'écran, ça la gave. Au bout de 8 minutes, elle va demander quelqu'un. Et puis, c'est l'escalade. Elle m'enquiquine pas. Au début, quand elle ramasse les pommes, elle fait la bouille d'un air de dire « ce grand-père-là, il est pas drôle, etc. » Et puis, petit à petit, elle est en train de voir ce que c'est que quelque chose de lent, de long et de passionnant. Alors, bien sûr, ça fait en 2017, cueillette des pommes, c'est pas terrible. Mais ils ont tellement besoin de ça. Hein. Rousseau nous disait toujours « c'est au jardin qu'on apprend la réalité ». Moi, je crois beaucoup à ça. Planter, attendre, offrir. Alors, faut pas faire que ça. Mais pourquoi on n'inclut pas des choses aussi simples que ça de temps en temps, si on en a le loisir? Parce que si on reste dans son ego, dans sa jouissance personnelle, eh bien, et surtout si on n'a pas de modèle, contrairement à ce que pensait mon cher Nietzsche, ni Dieu ni maître, moi je crois que quand il y a ni Dieu ni maître, eh bien, on va être fasciné par des dieux et des maîtres qui ne sont pas forcément sympas. C'est ce qu'on voit avec les minorités intégristes, djihadistes. Quand il n'y a pas d'adultes significatifs privilégiés à la maison, ben, on va les chercher ailleurs. Ils vont les chercher où? Ben devant justement des gens qui n'hésitent pas à dire voilà les dogmes, voilà l'idéologie, voilà les limites, voilà ce qui est simple. Et ben voilà, ils signent. Combien j'ai eu de délinquants, me souviens, de récidivistes, parce que j'ai bossé pendant les études de psychologie, j'ai bossé 10 ans avec des délinquants récidivistes, des durs de durs, mais combien s'en sont tirés tout simplement en allant à l'armée? Ils disaient pourquoi? Ils disaient mais au moins là-bas on ne discute pas, c'est comme ça, ils ont besoin de ça. Je ne dis pas qu'il faut un régime militariste à la maison, mais si on a un enfant qui a un petit peu de soucis avec la jouissance immédiate, oui, il faut poser beaucoup beaucoup de limites, et l'interdit de l'écran fait partie de ces limites-là. Et bien sûr, dans notre échange, vous allez sans doute me dire, mais oui, mais quand tous les autres ont des écrans, c'est bien difficile d'être... Celui qui va résister. Alors, je n'ai pas dit de supprimer tout, mais de réguler très fort. Et puis oui, résister. Ben, on peut expliquer à son enfant, je suis désolé, ton copain fait 4 heures d'écran, peut-être, j'en sais rien, mais chez nous, c'est pas comme ça. Peut-être. Mes filles étaient au lycée de Deauville quand elles faisaient leurs études, et au lycée de Deauville, il fallait avoir un scooter à 14 ans, il fallait avoir un téléphone à 12 ans, etc., etc. Ben donc j'étais le parent fasciste qui ne donnait pas de téléphone, etc. Bon, c'est tout. Ben c'est vrai que c'était dur pour elle, mais je leur expliquais. Oui, c'est sûr, vous n'avez pas des vêtements de marque, vous n'avez pas de tous les écrans, tous les trucs, ben c'est comme ça, parce que je pense vraiment que c'est pas bon. Bon, ben elle faisait la bouille. Mais quelque part, elle voyait bien ce que ça donnait chez les autres, toutes ces histoires-là. Donc faites leur confiance, ils font bien leur synthèse, parce que si on les écoute, quand ils plaident, ils vont tous vous faire croire qu'il faut une sexualité précoce, qu'il faut toucher les bédos, qu'il faut avoir des écrans. Ils sont bons pour nous dire ce qui est normal. Non. Ils aiment bien aussi savoir qu'il y a des parents qui tiennent bon la route. Donc, ce n'est pas une génération majoritaire. Je voudrais pas qu'on ait quand même une sorte de vision très pessimiste des choses. Elle est minoritaire, mais par contre, vous avez dû le voir, elle nous accapare. Dans une famille, quand on a un enfant intolérant, frustration, qu'est-ce qui nous prend comme temps? C'est tout le temps lui qui se met en avant, et c'est ça qui est terrible, c'est au détriment des autres. Donc à un moment donné, un des enfants va dire autant faire le zouave comme l'autre, parce qu'on parle que de lui, etc. Donc c'est pas facile, et ils nous mettent dans ce qu'on appelle des réponses émotionnelles. Alors, les réponses émotionnelles, c'est quoi? C'est notre style éducatif. Donc, selon notre histoire, on a bien sûr un inné et un acquis, on a des tempéraments, on a des choses comme ça. Donc, on a tous un style. Ce serait idiot de dire voilà ce qu'il faut faire ou pas, mais il faut faire attention parce que les enfants qui ont ce genre de souci avec la réalité nous mettent dans ce qu'on appelle des attitudes émotionnelles. Donc, on peut très bien aller d'attitudes nourricières à des attitudes d'autoritarisme. Alors, les attitudes nourricières, j'appelle ça souvent le syndrome Calimero. C'est vrai que si vous avez été élevé dans une conception, les parents étaient trop durs ou au contraire étaient très valorisants, ben, vous êtes peut-être dans quelque chose où c'est assez difficile de pas être reconnu, de pas être aimé. On se doit d'être positif, surtout dans un contexte actuel où on n'arrête pas de parler d'éducation bienveillante. Donc, faut mieux éviter les conflits, etc. Ne jamais être à la verticale. Oui, mais si vous faites ça, effectivement, l'enfant risque, lui, d'en profiter et de prendre le pouvoir. Les enfants dont j'ai parlé, mais on peut tomber aussi dans ce qu'on appelle une attitude trop normative, c'est-à-dire si vous avez le syndrome de Zorro, je vais me faire respecter, il n'est pas question que les gamins fassent la loi, etc., on va être complètement conflictuel. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la diapo, mais il y avait un dialogue, c'était « Tu sais ce que c'est ?» demande le roi là dans son donjon, et c'est 200 000 paysans issus de familles très permissives, trop permissives, voilà ce que c'est. Donc, faut faire aussi attention à ça. Ça voudrait dire que l'autoritarisme est quelque chose de naturel. Non, absolument pas. L'autorité. Alors, l'accompagnement rationnel, ben, c'est justement ce qu'on appelle l'autorité en amont. C'est rationnel dans le sens qui tient compte de la réalité. Donc, un accompagnement éducatif, oui, il faut tout le temps renforcer le positif. Bien sûr, dès qu'il y a le moindre petit succès dans une zone d'échec d'un enfant, on valorise. Si un enfant a du mal à décrocher d'un écran, on lui dit bien que, ben, chapeau, on sait que c'est pas facile pour toi. Oui, oui, tes copains ont dû te dire qu'on est rien. Oui, on continue. Mais il y a aussi ce qu'on appelle du renforcement du négatif et de la conflictualité. C'est-à-dire si malgré tout ce que l'on dit et ce que l'on fait, l'enfant ne comprend pas, planque, fait les trucs en douce, ben, dans ce cas-là, on passe à la sanction. C'est-à-dire c'est plus j'essaie de réguler avec lui les heures, c'est je supprime l'écran. J'interdis l'écran, c'est aussi simple que ça. Et être conflictuel, on l'a dit, c'est surtout bien voir que s'il y a ce phénomène d'addiction aux écrans, est-ce que je n'ai pas des ratés, des marches, des premières marches d'escalier, comme on a dit, au niveau des exigences à la maison, au niveau des routines, au niveau de passer le petit coup de fil à papy, mamie, toutes ces petites choses qu'il ne fait pas naturellement, est-ce qu'on les exige, est-ce qu'on demande, ou est-ce qu'on les laisse baigner dans un tel contexte de plaisir que lui, effectivement, ce qu'il veut, c'est continuer à se créer des endorphines avec des outils dits de plaisir immédiat. Donc, les conséquences, ben, surtout pas l'émotionnel, hein, et c'est pour ça qu'on dit souvent, acceptation de son enfant, c'est pas du tout, il devrait, non, mais il y a de grandes chances qu'il soit attiré par les écrans, ça m'agace, malgré tout ce que j'ai dit, mais si jamais il passe à l'acte ou s'il truande, ben, est-ce que j'ai des conséquences? Non pas des conséquences émotionnelles du style « t'auras pas de smartphone pendant 6 mois », mais des conséquences immédiates sur qu'est-ce qu'on peut exiger à la maison comme petite tâche pour réparer ou des choses comme ça. Donc la bonne gestion émotionnelle, c'est de passer d'anxiété à inquiétude et de colère à énervement. Mais pour tout ça, il faut ce qu'on appelle une acceptation, c'est-à-dire non pas des phrases du style « mon fils ou mon enfant ne devrait pas être comme ça », mais il y a de grandes chances qu'il soit comme ça, je n'aime pas ça, et qu'est-ce que l'on fait? Et pour ça, il faut être cohérent entre adultes. Alors là, la diapo est un petit peu trop vieille, parce que d'abord, ce serait pas 69, ce serait plutôt 59, hein, où les adultes étaient plutôt tous contre l'enfant, mais là, c'était Chaunu, c'était un dessinateur normand qui faisait ça dans le journal Ouest France, c'était pour montrer que 2009, c'est-à-dire 40 ans après, c'était l'inverse, on a évoqué les adultes avec l'enfant contre l'enseignant. Donc ça, faut faire attention à cette cohérence entre adultes. Et j'ai envie de dire, c'est souvent ce qui est très dur dans les familles, quand on me dit, mais ça marche pas, on a remis de l'autorité. Ben, souvent, ben, il y a déficit entre père et mère, parce que selon ce que l'on a vécu, si quelqu'un a vécu des parents très, très autoritaristes, injustes, tout le temps, dans une espèce de... de vie grise, etc. Je le vois mal être conflictuel, je vois mal imposer des règles, des limites et des frustrations, mais faut en causer. Faut en causer. Je ne dis pas que c'est naturel, mais faut qu'on s'en cause. Moi, je sais que j'avais du mal sur exiger que les enfants goûtent la nourriture, parce que j'ai eu de sacrés souvenirs avec mes parents qui étaient plutôt de l'ordre du gavage et de la menace physique. Et c'est vrai que quand ma femme exigeait qu'un enfant goûte un haricot vert et tout ça, ça me faisait drôle. Ben dans ce cas-là, elle savait que c'était ma zone rouge, donc elle me faisait un clin d'œil en disant « confonds pas avec tes 5 ans ». Et puis ça marchait comme ça. Et à d'autres moments, c'était l'inverse. C'était quand ma petite dernière avait des grosses larmes de crocodile parce que c'était le moment du solfège, ça devait rappeler à ma femme un truc au niveau de la musique pas terrible où elle avait été forcée. Et là, c'était moi qui lui disais « Non, c'est Sarah Bernard, hein, c'est pas une dépression nerveuse qu'elle nous fait. » On peut marcher en code, c'est absurde de se dire qu'on sera tous d'accord sur l'autorité éducative. On a trop de vécus différents, mais il n'y a pas besoin de passer sur un divan. Il faut se dire que j'ai du mal pour ça, là je suis pas trop conflictuel là-dessus, là ça me fait bizarre. Mais si vous n'êtes pas cohérent devant l'ado ou le jeune enfant, alors lui, il rigole, parce que forcément il va se dire « le méchant c'est celui qui interdit, le méchant c'est celui qui exige ». Donc là, faut faire un effort de communication entre nous, parce que l'enfant peut très bien en profiter. Donc cohérence d'équipe, c'est pas tellement le sujet. Alors, est-ce qu'il faut un tutorat? Je ne sais pas, mais en tout cas, on parle souvent nous de psychoéducation, et la psychoéducation, c'est les trois acceptations, hein, inconditionnel de soi, des autres et de la réalité. Acceptation. Voilà comment tu es avec tes déficits et tes talents, ce qui inclut dans l'éducation, je te parle aussi des choses qui déplaisent, des choses où tu es moins bon, des choses que tu as à travailler. Acceptation inconditionnelle des autres, c'est oui, je t'oblige à te frotter et à te forger une certaine empathie qui n'est pas tout le temps naturelle, donc c'est pas facile de socialiser, d'affronter les autres, mais c'est la vie, et l'acceptation de la réalité, ben, c'est d'inclure au quotidien une réalité qui n'est pas une réalité virtuelle avec que du plaisir. Alors, attention à la psychologie positive, on parlait que de ça, mais je répète, le souci c'est qu'on travaille plus sur l'estime de soi que sur l'acceptation des réalités. Alors que être soi, alors là je passe un peu parce que il y a des choses, il y avait la grande vadrouille, mais c'est pas pour ce soir. C'est... Oui, je termine parce qu'il faut qu'on ait un échange, hein, c'est ça, on a une demi-heure d'échange. Alors attendez, je passe un peu parce qu'il y avait des petites choses. Bon, ça c'était pour les écrans, vous doutez bien, on en parle. Pédagogie sans stress, ça veut pas dire qu'il faut une pédagogie hyper positive. On a déjà évoqué tout ça. Attendez que je voulais vous parler quand même d'une petite chose. C'était ce qu'on appelle la loi de Gantt. On nous dit toujours attention, dans les pays nordiques, ça se passe bien, c'est formidable, Suède, Norvège, etc. Un jour, j'ai rencontré un ancien universitaire norvégien qui m'a dit « Vous savez pourquoi ça marche, toutes les pédagogies dites un peu style Montessori, tout ça, très actuel, horizontal, dans nos pays ?» C'est parce que, un, nous sommes dans une religion protestante très forte. La religion a un impact très fort à la maison. Donc, il y a aussi une transcendance des valeurs au-delà de l'ego des enfants. Et surtout, ils ont ce qu'on appelle la loi de Gantt. La loi de Gantt, c'était un écrivain suédois dans les années 30 qui a fait un best-seller et qui a été lu Suède, Norvège, Danemark, et qui depuis, c'est comme une nouvelle culture, quoi. C'est quelque chose que toutes les familles ont appris. Et dans cette fameuse loi de Gantt, c'est vraiment l'inverse de ce que nous, on nous disait de faire avec nos enfants. C'est, ils enseignaient à leurs enfants, tu dois pas croire que t'es quelqu'un de spécial, tu dois pas croire que t'es plus malin qu'un autre, tu dois pas t'imaginer que t'es meilleur. C'est quelque chose qui va dans le sens de, hé, Coco, t'es pas tout seul. C'est fou. Il me disait, mais c'est pour ça que ça marche dans nos cultures. On peut faire n'importe quelle pédagogie horizontale moderne. On a la religion d'un côté et on a la loi de Gantt. Culturellement, on a toujours appris à nos enfants qui ne sont pas devant les autres. Vous imaginez, nous, dans un contexte individualiste, carpe diem, où la religion elle est mise de côté, où les idéologies sont battues, etc. Eh bien, on a le cocktail qu'il faut si on remet du Montessori à la place d'autre chose. Voilà. Petite lecture, simplement, et je conclue juste après. Vous allez me dire, d'après vous, qu'est-ce qui a écrit ce texte-là? Il Il faut donc que l'éducation interdise, réprime, et il y a d'ailleurs largement veillant tout le temps. Qui a écrit ça d'après vous? Comment? Peu? Oui. Oui, c'est Freud. Ce qui est assez drôle, quand on voit tout ce que la psychanalyse a transformé de l'éducation au niveau de l'angoisse de castration, attention à l'autoritarisme, attention au complexe d'Oedipe et les interdits symboliques, les castrations symboligènes, tout ce qu'on en a fait, alors que lui, à la fin de sa vie, c'est Jacques Vandrilaire qui a retrouvé ça dans les œuvres complètes, disait, attendez, avec les enfants, il y a surtout de la répression à faire. Le père du « ne refoulez pas », regardez, parce qu'il savait très bien, non pas que l'enfant est un pervers polymorphe, mais que l'enfant avait besoin de quoi? De médiation, d'éducation dans le réel. Même le père du symbolique le disait. Alors, quelques hypothèses pour conclure. Ben, je crois qu'il faut qu'on fasse avec la réalité. Alors, bien sûr, on répondra dans l'échange sur peut-être des choses plus pragmatiques sur vos préoccupations. Mais je crois qu'il faut tenir compte de cette réalité 2017 et des nouvelles générations. Donc, on a dit, il vaut mieux marcher avec d'autres hypothèses que de réagir à l'émotionnel, mais surtout, n'oublions pas que n'importe quel accompagnement se doit d'être positif, mais conflictuel. Conflictuel, et surtout, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais moi, ce que j'essaie de toujours montrer, c'est de parler concrètement des choses. C'est pas pourquoi mon enfant est tout le temps devant un écran, est-ce qu'il a besoin de s'enfermer, est-ce qu'il s'exclut du monde réel parce qu'il a des malaises internes, est-ce qu'il quête là-dedans des excitations Avant de vous poser des questions comme ça, qui seraient sur un certain sens de l'écran, dites-vous bien que l'écran est facteur de déconcentration, l'écran stimule le plaisir immédiat, donc l'écran est un outil qu'il faut absolument réguler sans se demander le pourquoi du comment de son enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions, mais on commence par ça. C'est-à-dire, on ne se demande pas si un enfant fume parce qu'il a un problème d'oralité ou de complexe, ou je ne sais pas quoi, on se dit « le tabac est mauvais ». Donc je lui demande de ne pas fumer. C'est la même chose pour les écrans. Il y a à dire les choses. Vous pouvez le lire avec le bouquin de Bacan sur les statistiques. On voit les tendances presque iso et tout ça chez des jeunes qui ont mangé beaucoup d'écrans. C'est un outil dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'annuler complètement. C'est un outil qu'on doit réguler, comme on faisait dans le temps quand on disait ça sera une heure de télévision de temps en temps, mais ça sera pas la télé allumée du matin jusqu'au soir. Donc ça peut être très bien fait. Et quant au smartphone, il faut que ce soit absolument régulé d'une façon très stricte, parce que j'ai jamais vu un enfant qui a un smartphone dans la poche, ne pas le prendre. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il l'interdit, il est à la maison ou il est à l'école. Moi je crois que c'est plus facile de l'interdire à la maison, puisque quand on dit n'emporte pas ton jouet, ni d'aliments, ni de fusil à l'école, c'est bien à la maison que ça se passe. Donc, c'est de dire que c'est aux enseignements de mettre ça dans les petites boîtes, c'est pas très sympa. Enfin bon, c'est mon avis, mais en tout cas, gardez du bon sens, et j'espère qu'au moins là, ce que j'évoquais ce soir vous en donne. Donc le bon sens, comme disait Gide, c'est ne pas se laisser éblouir par un sentiment ou une idée. Si excellent puisse-t-il être, on risque de perdre de vue tout le reste. C'est ça le bon sens. C'est pas Torah des pâquerettes, c'est surtout, et c'est le petit livre que je vous propose en dédicace tout à l'heure, qui nous répète que faut pas trop psychoter. Ça c'est l'histoire de ne devenez pas psychologue de votre enfant, soyez parents. Oui, il y a des choses à gérer. Un enfant, on ne duplique pas, il est différent de nous, donc on n'a pas non plus à le formater, mais il faut l'élever, et pour l'élever, il faut être au-dessus de lui. Et puis les fameux S, éviter de survaloriser, de surstimuler, de surprotéger, et surtout la conflictualité construit l'enfant, parce que la frustration avec amour construit l'enfant. Frustration sans amour névrotise, amour sans frustration, c'est la toute puissance de l'ego. Voilà, et on en est maintenant aux questions-réponses. Alors, je fais un peu de pub. Dans toutes les bonnes librairies, mercredi prochain, et sur France Inter à 10h, sur l'intolérance aux frustrations.
Faut chauffer la salle, monsieur Pleu.
C'est jamais bon signe, ça veut dire.
Vous avez tout dit, peut-être.
Alors, des questions pas trop compliquées.
Ouais, c'est pas compliqué. Bonsoir à tous. Et en fait, moi, je voulais revenir sur l'autorité en amont, intervenir pour éviter de tomber dans les 5 S. Bon, en fait, moi, mon problème, c'est la surstimulation. Ce sont des enfants qui ne connaissent pas le rien, habitués tout le temps à avoir quelque chose à faire. Moi, j'ai un problème avec mon aîné, en fait. C'est, il veut tout le temps avoir quelque chose à faire. Dès que, en fait, il s'ennuie vite dès qu'on l'occupe avec quelque chose. Il peut demander un jouet. Il désire fortement ce jouet-là. On va l'acheter. Au bout de 2-3 mois, ça l'intéresse plus. Il faut trouver autre chose. Je m'ennuie, j'aime pas ça. En fait, à chaque fois, je suis obligé de trouver une solution pour ne pas entendre cette phrase-là, je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est tout le temps. Récemment, sa mère, elle a accouché pendant les vacances, donc on n'a pas pu partir. Donc le 2 mois, on est à la maison. Et c'était toute la semaine comme ça. Je m'ennuie. Un coup, on y va au parc, un coup, on fait du vélo, un coup, on fait ça, un coup. En fait, j'étais tout le temps en train de trouver quelque chose pour éviter justement d'attendre cette phrase-là.
Mais c'est bien ce que vous dites, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais si vous êtes dans ce genre de renforcement, vous êtes devenu un animateur de Club Med, c'est-à-dire qu'un enfant est tout le temps dans l'insatisfaction. Donc ce qu'il veut, c'est jouir tout le temps d'un plaisir. Et c'est nous, les adultes, d'inclure l'ennui, au lieu de lui dire « je vais lui éviter l'ennui ». Non, c'est bien l'ennui. Mais bien sûr, l'enfant ne va pas vous dire « papa, je m'ennuie, c'est formidable, je me construis dans la frustration, je vais être un être beaucoup plus adapté et beaucoup plus sensible à l'effort ». Non. Il va criser, là, s'il a surtout été habitué à être dans la jouissance immédiate, parce que c'est de ça qu'a peur le parent, c'est que l'ennui, quand on commence à dire, ben, ennuie-toi, il est pas très positif, l'enfant, s'il était habitué à être alimenté. Mais faut tenir bon. Eh ben oui, t'es pas content. Ben oui, t'es pas satisfait. Ben oui, y a rien. Ben oui, elle est moche, la vie. Ben oui, tes communs, c'est merveilleux pour eux, etc. Oui, pas de problème. On ne discute plus. Ça fait partie des choses de ne rien faire. Mais c'est pas possible. Si. Ça fait partie des choses. Et vous verrez qu'un enfant qui dit qu'il s'ennuie, a pas besoin de racheter des jouets ou des animations, ils prendront des crayons, ils prendront des ciseaux à découper, ils trouveront des petits bricolages à faire avec une boîte ou n'importe quoi. Parce que c'est ça, l'enfant est créatif, mais si on va à Toys R Us à chaque fois qu'il s'ennuie, là on consomme du Trump aigu, oui, de l'anglo-saxon, quoi, du bête. Donc faut faire attention à ça, créer l'ennui. Plus votre enfant demande des ennuis, mais je vais m'ennuyer, j'entends tout le temps ça avec ma petite fille quand elle arrive. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'ennuyer parce que je sais que chez l'autre papy, oh là, c'est n'importe quoi, il y a le trampoline, il y a le truc, il y a le toboggan, il y a la caverne d'Ali Baba dans la chambre, etc. Chez moi, il n'y a rien. Quand elle vient, bah rien, peu de choses. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, elle va dire, tiens, et si je pouvais le petit piano, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec le petit piano tous les deux, oui. Mais on attend aussi, avant de passer à la petite touche de piano et de faire une petite musique ensemble, rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes pas de moi? Non, je travaille. Bon, bah, elle attend. Elle fait la bouille. Elle me dit pas, c'est super, j'ai compris, c'est chapitre 4 de ton bouquin, j'ai 5 ans, ça va être facile pour le CP, elle me fait la bouille. Ben, moi, je souris de temps en temps, ben, tout à l'heure. Et elle attend. Et puis, à un moment donné, elle dit, est-ce que t'as une petite feuille de je sais pas quoi? Et comme par hasard, elle prend une petite feuille, et puis elle va reprendre un petit feutre, et elle va le faire des choses toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez le faire, mais vous aurez cette phase où l'enfant vous regarde d'un air de dire, je ne t'aime pas, d'un air de dire, je souffre trop. Et alors? Mais moi, je t'aime, et c'est pour ça que je te donne du rien et de l'ennui. Sinon, vous allez courir tout le temps, à faire des tas de choses, jouer des gens, mais c'est fou. Quand je demande à des parents, vous faites quoi tous les deux, vous père et mère, le week-end? Ben, c'est que pour l'enfant, quoi. Pour pas qu'ils s'ennuient. Ben, bon, vous ennuyez pas dans la vie, vous? Alors ça, c'est le problème des adultes, parce que si le problème lui-même de l'adulte, c'est qu'il a une intolérance aux frustrations, il y a de grandes chances qu'on ne supporte pas que son enfant souffre de la même chose que nous. Donc, on a aussi une petite discipline de vie à faire. C'est-à-dire que si je ne fais pas ma marche rapide en disant, ma petite fille, toi, je n'aime pas du tout ça, je vais en faire parce que je suis encore en surpoids, enfin, j'explique avec des mots, c'est aussi là qu'on a à être modèle. Pas parfait, mais être modèle. Oh, je ne suis pas parfait, elle sait bien que j'adore et je suis gourmand, etc. Mais elle me voit me forcer à faire du sport. Elle me voit répéter un truc parce que je voulais apprendre le banjo, c'est pas si facile, et puis qu'il faut faire... Vous voyez, si on ne montre pas des choses comme ça, mais l'enfant, il se dit que tout est miraculeux, tout est formidable, non. Ça veut pas dire qu'il faut montrer qu'il faut en baver, que c'est dur, c'est pas ça que je veux dire, c'est... Ben voilà. Ah ben oui, alors t'écris des livres, ben oui, mais j'écris des livres, des fois, ben il faut quand même toc, je préférais regarder le match de foot tout à l'heure. On peut expliquer tout ça. Modèle. Pas modèle parfait, modèle humain. Mais en disant que c'est dur. On va pas dire si je souris quand je fais un truc frustrant. Non, quand je ramasse les pommes, je suis comme elle, ça fait froid aux mains. on a du truc partout, hein, ça gave un peu, hein, c'est lourd. Ben oui, mais après notre sourire augmente, on l'a dit, quand on pèle les, et quand on fait la compote, etc. Montrez ça. Faites de la compote de pommes avec votre enfant. Ah, c'est de la haute psychologie. Je sens que je vais être invité chez vous. Monsieur.
Oui, moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez passé assez rapidement, à part peut-être là dans la réponse, dans les réponses que vous venez de donner. C'est par rapport à la comparaison. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on veut frustrer un peu nos enfants, on est systématiquement rappelé à l'ordre parce qu'ils ont des copains où il y a des différences et chez les autres ils ont le droit et pourquoi moi j'ai pas le droit et finalement ça nous déstabilise beaucoup et on sait pas bien comment répondre à ça. Et l'autre question que j'ai un peu par rapport à ça, c'est l'exemple du Nutella. Moi je remarque qu'on a fait une tentative d'interdire le Nutella pour que, enfin je dis le Nutella, c'est parce qu'il y a un petit point sur le sujet à la maison, c'est que on s'apercevait que ils ne voulaient plus déjeuner réellement s'il n'y avait pas de Nutella, et on a fini par faire marche arrière pour qu'ils mangent réellement et qu'ils partent en ayant mangé. Alors on a l'impression d'avoir mal réagi, mais finalement c'était pas non plus une solution qu'ils ne
Non, mais je comprends.
N'essaye pas cette frustration.
C'est quand je parlais un peu rapidement à la fin, parce qu'il fallait que j'aille vite sur l'anxiété qu'on peut avoir, l'attitude émotionnelle qu'engendre les comportements de nos enfants. Là, il y en a deux. Si je reviens sur le Nutella, effectivement, quand on voit son enfant ne pas manger le matin, alors qu'il part à l'école, on se dit, c'est quand même bête quand il y a la Nutella, au moins, il part avec quelque chose dans le ventre. Là, on est de nouveau dans un renforcement. On a cédé. C'est vrai que vous allez me trouver facho, etc. Mais moi, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de Nutella, tu perds le ventre vite. Et à chaque fois qu'on fait ça, l'enfant n'est pas content. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque, etc. Puis à un moment donné, il va se dire, peut-être qu'avoir une tartine beurrée, c'est pas si mal que ça. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que je n'ai pas mon goût sucré le matin de ce que je veux, donc je ne mange pas. Donc je décide du menu. J'ai vu des tas de gens faire des menus à la carte parce qu'effectivement, on me disait, mais fallait quand même mieux dédier, pleu, que je mette des petites cochonnerie, une nugget, je sais pas quoi, parce qu'ils les mangent, que de leur imposer des brocolis qu'ils ne mangent pas. Dans ce cas-là, ils auront un menu à la carte, ils auront jamais du manger sain, ils auront dû manger toujours pareil, anglo-saxon, de la junk food, quoi. Non, c'est à vous de dire, vous n'aimez pas ça, je vous ai demandé de goûter, ce soir, vous aurez le ventre un peu plus vite, parce que lui, je vous dis, je ne vais pas vous faire un menu à la carte. Mais c'est pas être méchant, ça, c'est leur dire, mais c'est la vie, ça. Quand vous serez au boulot, il y aura pas un menu à la carte. Quand vous serez avec votre conjoint, il y aura pas de menu à la carte. On fait pas ce qu'on veut dans la vie. C'est pas tout le temps ça. Alors, c'est pas de faire la morale dès le matin, c'est de dire, chez nous, on estime que la Nutella, c'est de faire des nouveaux obèses, c'est pas bon, trop de sucre, etc. Donc, on veut que vous mangiez sain. C'est pas bon de manger sain? C'est pas bon de manger sain, mais c'est sain. Donc tenez bon là-dessus, sinon vous êtes cuit. Et alors si c'est la comparaison avec les autres, ils sont très forts là-dessus. Moi, quand j'écoutais les copines de mes filles, il y avait il y en avait même qui louaient une boîte de nuit pour la fin de la troisième. Mais en présence d'adultes, oui, c'était bien fait. Des adultes avaient loué une boîte de nuit pour que tous les enfants puissent danser, etc. Moi, c'était niette. On va pas en boîte de nuit à 14 ans et demi, c'est quoi cette histoire-là, même s'il y a des adultes, oui. Alors bien sûr que j'étais le réac, le facho, etc., mais j'étais persuadé aussi que c'est ça qui a permis à ma fille de passer un an dans une famille autre que la sienne. Parce qu'elle était habituée à un autre rythme de vie, alors que les autres disaient, on n'aurait jamais pu nous séparer de nos amis et de nos enfants au bout d'un mois. Oui, ils se fragilisent. Plus vous cédez sur cette petite chose dite frustrante, alimentation, sortie, écran, et plus ils sont vulnérables, et moins ils résistent justement à l'effort, aux contraintes, aux déplaisants. Et c'est ce que voyaient mes enfants quand ma fille expliquait la dernière, je me souviens, c'était en terminale, quand ses copines disaient « Mais comment tu fais, toi ? Oh là, tu t'y mets tous les soirs, là, comme si c'était la petite sérieuse. » Elle disait « Mais je fais ça depuis le primaire. » Oui, on avait habitué nos enfants, même quand il n'y avait pas de boulot en primaire, c'était... En CP, 10 minutes tous les soirs, on reprenait les mots de la journée ou les petits trucs d'écriture. Et en sixième, ça allait être 20 minutes tous les soirs jusqu'au samedi, sur 6 jours, 20 minutes ou un quart d'heure. Et puis progressivement, en seconde, c'était 1 heure. Et puis en terminale, c'était le fameux 1 heure et demie par jour, régulier, dimanche compris. C'est ça l'histoire, comme disait Alexandre quand il disait « je fais du vélo sur le plat pays ». On m'a pas habitué à l'Alpe d'Huez avant. Ben c'est, oui, c'est pas l'Alpe d'Huez tout d'un coup. C'est progressivement, on donne une habitude. On peut donner une habitude de travail, des habitudes alimentaires, des habitudes d'hygiène sportive, des habitudes d'empathie, des habitudes... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le rôle du... Mais par contre, ils vont jamais vous dire « c'est formidable, c'est comme ça que font les autres ». Ils plaident leur cause, mais quand vous faites bien le tour de certains parents, vous allez voir « ah bon, vous aussi ?» Ben non, je pensais un peu comme vous que c'était un peu trop tôt d'aller en boîte de nuit à 14 ans et demi. Si vous vérifiez bien auprès des parents, vous verrez que tout le monde ne donne pas de la Nutella à ses enfants. Et ça, ça vous fera tenir. C'est pour ça qu'on dit toujours... Concertez-vous les parents, régulez, parlez-vous, parce que sinon il y a une culture jeune qui va vous faire croire que c'est ça la vraie vie. Les écrans, le smartphone, les fringues, les trucs, la sexualité précoce, on n'en a pas parlé, mais voilà un grand sujet où ça paraît normal de vivre en couple à 16 ans chez papa, maman. N'importe quoi, là. On voit des parents qui attendent. Ah, vous savez, je laisse du petit déjeuner, ils vont se réveiller tout à l'heure. Mais c'est quoi? C'est la lune de miel chez les parents? Non, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Donc faut faire attention, c'est l'ogre intérieur, l'enfant, l'adolescent. Devant le principe de plaisir, il toujours plus. Et la société de consommation veut ça. Je me souviens d'un débat avec des publicitaires, quand je leur disais, vous n'êtes pas gonflés, vous les publicitaires, vous participez à ça. Hein, quand on voit un enfant qui choisit la bagnole, moi je trouvais qu'elle était belle, on voit ça, des pubs d'achat de voitures, c'est l'enfant. Souvent on voit que c'est l'enfant qui décide. Et vous savez ce qu'il répondait, publicitaire? Ah ben non, nous, on prend ce qu'il y a. L'enfant décide, donc on fait des pubs où l'enfant décide. Si demain c'est la grand-mère, on fera des pubs avec les grand-mères qui décident. Donc faut faire attention. La société en ce moment va dans ce sens de la consommation. Et quel est le grand consommateur jouisseur? C'est l'enfant, l'adolescent. Donc si nous, on n'est pas là pour dire on freine, mais il faut accepter en tant que parent d'être par moment détesté, mal aimé, rejeté, parce qu'effectivement, dans l'immédiateté, il ne nous aime pas. On n'est pas là pour être aimé, on est là pour éduquer. Et très vite, ils comprennent ça. Et très vite, ils sont avec nous. Moi, toute ma génération, ça a été les parents qui tutoyaient leurs enfants. Si vous savez le nombre d'amis, quand je leur dis « Alors, à la fête des pères, ils sont là, les enfants ?»« Oh, ben non, c'est ringard, la fête des pères. » Ben moi, je suis content que toute ma famille soit là, à la fête des pères, à la fête des mères. C'est sans doute ringard, mais c'est ce qu'on a instruit. Mais dire que ça a été facile quand ils étaient jeunes, ados, non. Mais voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc, tenez bon sur le Nutella, et ce sera les premiers à dire, papa, merci, je suis pas en surpoids.
Une dernière question, peut-être?
Quelle différence vous faites entre faire de la peine à nos enfants et les frustrer?
Ah ben on leur fait de la peine, hein.
Oui,
mais c'est pas une histoire affective. Faire de la peine, ça serait de dire justement à un enfant, tu sais, tu fais pas plaisir, hein, tu travailles pas beaucoup, hein, tu sais, tu te conduis pas bien à la maison, hein, tu sais, on n'est pas très content de ton comportement avec ta copine, tu sais, ça c'est faire de la peine parce qu'on atteint l'ego de l'enfant, on atteint ses valeurs. Frustrer, c'est pas faire de la peine, c'est du déplaisant. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité. C'est à voir avec, je suis obligé de passer par là parce que c'est la vie. L'effort, c'est la vie. Mais bien sûr, l'enfant va pas sourire à ce moment-là. Alors vous pouvez dire, il a de la peine. Bah oui, peut-être qu'il non. Il est frustré. Combien de fois je dis aux parents quand il est ennemi, il déprime quand il s'ennuie, mon enfant, je vous jure, il est blême, il est pas bien, ou il est dans une colère terrible. Il est frustré. Parce que si vous commencez à dire frustré égale peine égale déprimé, vous allez rentrer dans la psychologie classique qui vous dit que quand l'enfant est en frustration, c'est qu'il y a un manque terrible derrière. Souvenez-vous, on nous disait que les enfants ne faisaient pas de caprices, c'est encore dit hein, chez certains. Mais l'enfant ne fait que des caprices. Il ne fait pas des caprices dans le sens perversion, je fais exprès pour embêter tout le monde. Il le fait parce qu'il est biologiquement programmé pour le plaisir. Donc un tout petit, si on arrête son endormissement, il hurle. Si on arrête le câlin, il hurle. S'il arrête l'alimentation, il hurle. Si on arrête le jeu, il hurle. C'est pas dans le sens capricieux, méchant, c'est dans le sens, dès qu'on interrompt quelque chose qui est bon, l'être humain, et surtout tout petit, ça va pas. Vous savez bien, quand ceux qui ont eu des problèmes de coucher avec leurs enfants, bah c'est au moment effectivement où, pour ça que je dis toujours, arrêtez ces histoires à rallonge où l'enfant vous le mettez encore dans un truc de plaisir jusqu'au bout. Non, faut gentiment, on tamise les lumières et on est de moins en moins en relation et on raconte pas l'histoire de Bayard à 9h-10 tout d'un coup où l'enfant repart en flèche. Donc c'est, mais souvent l'enfant, celui qui est un petit peu dans la dépendance, il va vouloir rester dans le lit. Combien de fois des gens sont dans le co-sleeping maintenant? Je vois ça le fois une maman qui a son gamin tout le temps sur elle. Et je te donne le sein toutes les 20 minutes, il y aura des coliques du troisième mois, pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On sait que l'enfant, mais si on lui fait le même état que quand il est dans le ventre de la maman, ben après, quand ça va se passer le sevrage, c'est ça interrompre. C'est pas dire je t'aime pas, mais je vais interrompre ton processus de jouissance immédiate parce que ça n'est pas possible. Te prendre dans le lit, t'alimenter tout le temps, ça n'est pas possible. Jouer tout le temps, ça n'est pas possible. Te câliner tout le temps, ça n'est pas possible. Et c'est simplement ça que l'on dit et c'est ce qu'on propose dans le... Quand on dit développer le self-control de l'enfant, on va inclure des choses où ça s'arrête. Mais pas par méchanceté, ça n'est pas possible. Donc l'enfant va pleurer un peu, et puis tous ceux contenus bons savent bien qu'un enfant qu'on met au lit pour la sieste vous dit pas merci, j'en avais besoin, surtout si c'est un cheval fougueux, mais par contre il va se calmer. Mais dès que vous remontez, il reprenait un gros câlin, eh ben il remet ça 10 minutes après, et c'est cuit, il n'y a plus de sieste. C'est pareil pour l'alimentation. Si vous faites de l'allaitement à la demande, comme c'était redevenu à la mode, vous allez voir, vous les mamans, vous allez être épuisés. Comme en plus en psychologie, on vous a dit que vous étiez forcément coupable, hein, puisque quand même jusqu'à 3 ans, l'autisme était de la responsabilité des mères froides, fallait le faire quand même. Donc faut faire attention à tout ça. Non, ni les mères, ni les papas n'êtes coupables, mais... attention à ne pas laisser l'enfant dans une biologie animale instinctuelle qui ne peut pas l'humaniser. Humaniser, c'est apprendre l'autre, apprendre la réalité. Et on peut le faire très petit en disant « Non, 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 je sais que t'as faim, je reviens, bisous, bisous. Non, 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 t'as besoin de dormir. Oui, oui, je sais que tu pleures. » On a vérifié qu'il n'y a pas de fièvre et tout ça, bien sûr, mais une fois que tout ça est vérifié, on tient bon. Et si on tient bon, bah, tous ces enfants-là dorment tranquillement, ont des rythmes de sommeil, ne quémandent pas tout le temps à jouer, etc., parce qu'ils savent très bien que l'autre existe. Souvenez-vous, sur le parc, moi, il y avait des parcs chez moi. Oh, le facho, il y a un parc pour les petits. Mais les parents qui n'avaient pas de parc n'arrêtaient pas d'être tout le temps à rattraper le gamin par les pattes. Non, bah, faut mieux le mettre dans un parc, et puis, pas toute la journée, on fait des choses avec lui, mais de temps en temps, montrer, ah bah, t'es à moi de jouer maintenant, hein, et papa, il va bouquiner, il va faire autre chose, oui. Montrer que l'autre existe, et puis le gamin, il est là sur son parc, et il piaille, et puis après, il s'assoit, il prend un cube, et puis en avant, ça marche. Mais on est tout le temps avec eux, tout le temps en train de, comme si c'était le drame qui se sépare de nous. Bah oui, c'est dramatique pour eux, mais faut bien qu'ils l'apprennent, parce que s'ils l'apprennent, ils l'apprennent quand? Sinon. À 30 ans? Voilà. Ok, merci, ben, je vous remercie beaucoup.